Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette libre antenne du dimanche soir sur Europe 1. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour partager vos confidences, vos histoires de vie, mais aussi vos doutes, vos questionnements, vos expériences. Parce que parler de ce qui nous préoccupe à quelqu'un d'autre, ça nous permet à nous-mêmes de mieux nous entendre et quelquefois de voir les choses autrement. Alors ne restez pas seul ce soir, venez me parler. Je vous attends au 3921 pour vous prêter une oreille attentive. Vous pouvez appeler pendant toute l'émission, vous tomberez au standard Europe 1 sur Amandine et Hassan qui vous accueilleront avec beaucoup de gentillesse pour vous amener jusqu'à moi. 3921 donc pour le numéro de téléphone et pour participer par SMS, envoyez un mot de soutien à celui ou celle que vous écoutez, suggérez une idée, une piste, partagez une expérience ou simplement entrez en contact. Vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit. Fabrice Fougeroux est aux commandes ce soir, la libre antenne, ça commence donc maintenant. C'est donc avec vous, Moïra, que je commence cette émission. Bonsoir. Bonsoir, Moïra.
Bonsoir.
On va commencer d'abord par chanter. Bon anniversaire à vous.
Merci beaucoup, merci. Alors, je dois dire que je suis trop tremblotante parce que j'écoute avec beaucoup d'intérêt vos émissions. Et je trouve qu'il y a de très très beaux partages. Et à chaque fois, j'aurais envie de mettre mon petit grain de sel.
Mais n'hésitez pas, les SMS sont là pour ça.
Oui, alors je me suis dit, je vais vous appeler. Mais enfin, il y a tellement de problèmes, beaucoup de thèmes que je ne sais plus où commencer. Il y a des problèmes familiaux avec mon mari. Il y a des problèmes avec sa famille à lui. Il y a des problèmes avec mes sœurs à moi.
Bon, on va tout mettre sur la table, on va prendre les trucs un par un, si vous voulez bien.
D'accord, merci.
Alors, commencez avec votre mari, comment ça a commencé cette histoire avec lui?
Alors, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, et j'étais très amoureuse de lui.
Ouais.
Et j'ai espéré la même chose, enfin, pour moi, c'était normal. Et alors, je l'ai aidé, parce qu'il voulait partir aux États-Unis. Alors, on s'est connus quand même pendant une année. Et puis, il voulait partir aux États-Unis, je l'ai aidé à faire des traductions, etc., etc. Et puis il est parti, mais avant de partir, il m'a dit que je voulais avoir une petite bague, comme toutes les jeunes femmes, pour être fiancée. Il m'a dit non, ça sera trop sérieux d'avoir une bague, mais j'aimerais bien que tu me restes fidèle. Et moi, lui, le mari, j'aimerais connaître d'autres femmes et avoir des relations sexuelles. Alors j'étais un peu étonnée, j'ai un peu pleuré, mais enfin, je me suis dit, après tout, on peut pas attacher quelqu'un. Puis alors il est parti, puis après il est revenu, etc., etc. Et puis, on s'est connus quand même pas mal de temps et on s'est mariés. Et je ne voulais pas me marier, en fait. Je voulais bien me marier, mais enfin, il a fait une grande fête et avec des chevaux et tout ça. Et puis, alors, il a payé l'hôtel pour tout le monde pendant deux ou trois jours. Moi, je ne me rappelle pas exactement. Il a payé l'hôtel pour tout le monde. Et puis, après ça, on n'avait plus un sou. Il a prêté de l'argent à un oncle qui était là aussi, qui a vu que le mariage était fastueux et qu'il devait avoir beaucoup d'argent. Et je lui ai dit, évidemment, non, c'est pas bien, mais enfin, attends un tout petit peu, il faut te renseigner avant de donner cet argent. Et à peine que je lui avais dit ça, il avait envoyé une somme assez importante à son oncle. Mmh. Et puis après, nous avons eu pas mal de difficultés. Mon mari, je n'aime pas parler de manipulation, mais enfin maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai été assez manipulée. Et c'était lui qui décidait de tout, de toute façon. Il a voulu s'arrêter de travailler pendant une année, ça a duré trois années. Quand on achetait une voiture, c'était lui. J'avais seulement droit à la couleur. Enfin, c'était assez, assez difficile, mais enfin, je ne m'en rendais pas compte. J'ai beaucoup lutté, j'étais dans tous mes... toutes mes difficultés avec lui, et je ne me rendais pas vraiment compte.
Vous dites, je ne me rendais pas compte, mais vous étiez malheureuse quand même de tout ça.
Ah oui, j'étais très, très malheureuse.
Ça ne vous rendait pas spécialement heureuse de vivre comme ça?
Ah non, non. J'étais très, très malheureuse. Mais en fait, je ne savais pas comment m'en sortir, en fait. Mm. J'essayais de pour dire, le changer. Hein. Alors que je sais très bien aujourd'hui qu'on ne peut changer personne. Déjà, moi, je sais que j'ai des difficultés à me changer. Et alors, avec cet homme, c'était encore plus difficile. Et alors, voilà. Alors, ça fait 10 ans qu'on nous sommes séparés. Moi, je me suis sauvée. Je dirais sauvée pour ne pas en crever.
Comment ça s'est passé?
Alors, je suis partie. Je suis partie dans un autre pays. Et alors, je pensais venir m'occuper de ma maman. Enfin, pour lui, c'était OK. Mon mari n'a pas d'opinion, vraiment. Je trouve un peu inconscient, je dirais, qui n'a pas de conscience, en fait. Et il m'a laissé partir. Enfin, c'était OK. Et puis, mais les enfants étaient déjà grands. Ils avaient fait leurs études et j'étais débarrassée de leur éducation, en fait. Mmh. Et alors, j'ai fait des études d'infirmière en pédiatrie et j'avais mis un peu d'argent de côté. Et puis alors, j'ai pu acheter mon petit appartement, enfin, commencer à le payer. Et puis alors, entre-temps, mon mari me disait, notre compte est en rouge, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Non, j'avais un peu d'argent de côté et j'ai beaucoup lutté parce que je me disais, c'est pas normal que tu ne prêtes pas à ton mari des sous parce que la banque demande 13% et tu pourrais l'aider, etc. Mais j'ai quand même tenu bon et j'ai pu payer mon petit appartement qui n'est pas... Enfin, qui est maintenant payé. Et puis, alors, on a quand même des relations parce qu'on a un compte en commun, etc. Et j'ai jamais voulu divorcer, en fait, parce que je me suis dit, oh, je voulais pas vraiment me marier, je vois pas pourquoi je voudrais divorcer. Parce qu'il n'y a pas de nécessité.
Et lui était OK avec ça?
Oui, enfin, lui, il n'avait pas d'opinion. Enfin, il vit sa petite vie, il vit dans sa garçonnière, il est à l'étranger. Et puis, alors, il n'a pas beaucoup, il n'a pas, en fait, pas d'opinion. Il n'est pas ni pour ni contre. Et il y a quelque chose que j'ai subi, vraiment, ce qui était très dur. J'ai avorté aussi. Après la naissance des 2 enfants, j'ai avorté. Et alors, je me suis renseignée à droite, à gauche, etc. Et mon mari, il est en dehors de tout ça. Et alors, j'ai été avec une copine prendre des renseignements et tout ça. Et le jour de cette intervention, je lui ai demandé de m'accompagner. Il est venu avec moi. Et moi, enfin, il était... On n'en a jamais parlé, en fait. Hein. Mais moi, je pense encore à cet enfant, cette petite fille que j'aurais certainement eue, qui aurait été magnifique.
Pourquoi vous n'avez pas gardé à cette époque-là?
Oh, parce que je m'en rendais compte que je ne pouvais pas. Le mariage était assez... C'était assez difficile, assez dur. Je me disais, avec 2 enfants, tu attrapes un à droite et un à gauche, tu cours. Mais si tu as un 3e, où est-ce que tu le mettras?
Et comment il était, lui, comme papa?
Oh mon Dieu, inexistant. Inexistant.
Vous ne pouvez pas
méchant.
Vous ne pouvez pas compter sur lui, quoi, pour que
c'était. Non. Inexistant. Ouais. Et moi, je me rappelle à la confirmation, parce que nous sommes protestants, à la confirmation d'un de mes fils, qui jouait au piano. Alors, il y avait toute la famille, etc. Et déjà, son fils de jouer, le fils a joué un tout petit peu, et puis après. Rejoue, etc. Et puis, non, je ne veux pas. Ben, je te donne de l'argent. Vous voyez? Des choses comme ça.
Oui.
Ou alors, c'est très moche. Et il y avait des conflits à cause de ça. Par exemple, quand mon enfant était en route dans le bus, et puis il arrive à la maison, maman, il y a un monsieur qui m'a parlé, qui m'a demandé où est-ce que j'habitais, etc. Je dis, oh, la prochaine fois, quand quelque chose comme ça t'arrive, tu vas vers le chauffeur, pour que tu ne sois pas en danger. Et mon mari disait, mais non, c'est pas grave. On était toujours en conflit, de toute façon. Et je me rappelle une fois, j'étais vraiment enragée contre lui. Et alors, j'avais fait le repas, je l'attendais. Il me disait qu'il venait à 21h, à 23h, il n'était toujours pas arrivé. Et alors, il était assis avec sa nappe. Évidemment, je mettais une nappe, son vin sur la table et tout ça. Et puis alors, j'étais en train de le disputer, lui dire des choses assez peut-être désagréables. Et puis alors, il ne répondait pas, il mangeait son petit repas tranquillement. Alors, j'ai pris la bouteille de vin, je lui ai versé toute la bouteille sur la tête.
Ah oui?
Oui. Mon mari s'est levé, il a été dans la salle de bain, il a échangé sa chemise, il a mis au linge sale et puis il est retourné manger. Et c'était comme ça tout le temps. Hein. Et je me rappelle une fois aussi, j'allais assez mal, j'étais vraiment au bord du suicide en fait. Et j'ai été voir un psy, il devait partir en voyage, je lui ai dit non, tu ne peux vraiment pas partir, il faut que tu restes là aujourd'hui. Alors on a cherché dans le bout un médecin, on a trouvé un médecin, un neurologue, on a trouvé un psychiatre. Mmh. Alors, j'ai eu tout de suite un rendez-vous tout de suite, comme on était dans une caisse privée. Et puis alors, j'ai vu ce psychiatre. On s'est disputé, évidemment, devant ce monsieur. Et puis, il nous a un peu parlé de la famille, comment on était, etc. Et puis alors, il a dit, OK, de toute façon, ne vous en faites pas, je ne vais pas vous donner de médicaments. Alors, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment super contente. Et puis, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il est merveilleux, ce type. Et alors, j'allais chez lui une fois par semaine.
Oui.
Et puis, au bout de 6 mois à peu près, je suis évidemment tombée amoureuse de ce psychiatre,
oui.
qui était l'ami idéal, hein. Grand, adorable, un peu...
Vous savez, bon. Moïra, que c'est un grand classique, hein, ça s'appelle un transfert.
Oui, mais en fait, je n'étais pas au courant. Hein, mais enfin, quand même, hein, je suis quand même assez lucide et j'étais quand même embêtée, hein, d'être tombée amoureuse de ce monsieur. Mais enfin, pour moi, c'était le copain que j'aurais voulu avoir, hein, l'ami, en fait, l'ami. C'est même pas le copain, l'ami. Et puis alors, mon mari arrive avec son attaché-case, etc., son costume. Et puis je lui dis, écoute, voilà ce qui m'arrive. Je suis tombée amoureuse de monsieur Intel. Et puis il me dit, il me regarde, il est plus grand que moi. Il me dit, alors, qu'est-ce que tu as fait à manger ce soir? Et c'était souvent comme
donc
ça.
Donc zéro communication.
Zéro communication.
Quelles que soient les provocations que vous avez pu faire, il n'a pas réagi.
Il ne réagissait pas, voilà. Et je me disais même, on habitait un bungalow, on avait une cave aménagée. Je me disais, mais tu pourras avoir un ami, un amoureux dans la cave, tu pourrais le nourrir, lui porter à manger chaque jour, il ne s'en rendrait même pas compte.
C'est la force de l'inertie, ça s'appelle.
Et ça veut dire quoi?
L'inertie, c'est quand on ne bouge pas, quoi qu'il arrive. Rien ne nous fait bouger.
Et alors, quelquefois, on avait quelques amis, enfin, c'était mes relations. Et alors, je faisais des beaux repas, les gens arrivaient, on était à l'étranger, les gens arrivaient, tremblotant, le monsieur tremblotant avec son bouquet de fleurs, etc. Et alors, il était très fier, hein, je faisais bien la cuisine, etc. Et puis alors, il donnait à ses invités beaucoup à boire, hein, il aimait beaucoup boire, et puis on avait des gros verres. Et alors, il donnait à ses invités à boire, etc. Et quand les gens partaient, des messieurs, qui étaient professeurs d'université, lui disaient, écoute, « Ah, c'est exagéré, j'ai trop bu, etc. » Et puis, mais c'était pas lui, c'était moi, c'était la maîtresse de maison qui... C'était après moi que tout le monde était fâché, en fait. Hein. Et c'était toujours comme ça, toujours comme ça. Et alors, je m'en rends compte même aujourd'hui avec sa famille, ils sont tous fâchés contre moi.
Mais j'imagine que c'est depuis le divorce qu'ils sont fâchés, non?
Non, 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 on n'est pas divorcés, moi.
Enfin, depuis la séparation, c'est pareil.
Oui, non, même pas, non, non. Toute façon, on me disait beaucoup de méchanceté. Je me rappelle une fois, ma belle-sœur m'a dit devant mes enfants, devant les beaux-parents, « Au fait, est-ce que tu aimes ton mari ?» Et alors, j'étais vraiment enragée. Je me dis, comment peut-elle me poser une question pareille, alors qu'elle devait savoir que ça n'allait pas bien dans le couple. Hein.
Mmh.
Alors, moi, j'ai répondu, « Écoute, si j'ai besoin d'un thérapeute, je saurais où le trouver. » Et puis alors, elle me disait qu'elle n'aimait pas mon fils aîné. Enfin, beaucoup, beaucoup de méchanceté. Moi, j'arrivais avec tous mes cadeaux. Enfin, j'exagérais pas quand même. Hein. J'arrivais avec mes petits cadeaux, avec toute la famille. Je donnais un petit quelque chose à ma belle-mère. J'achetais de belles chemises de nuit. Ma belle-sœur les prenait. Et quand ils étaient devenus trop vieux, elle le rendait à sa mère. Et c'était toujours comme ça. Toujours. C'était... On a vécu aussi aux États-Unis. Alors moi, j'ai quitté mon travail, je travaillais en Suisse. Alors je suis tombée enceinte, hein. C'était pas prévu, mais enfin, on était mariés. Hein. Et alors, je suis tombée enceinte, et puis alors, j'ai dû quitter mon travail le 13 décembre. Et à la fin du mois de décembre, j'ai su que j'attendais un bébé. Alors, nous sommes partis aux États-Unis, et puis alors, mon mari n'avait pas de travail, il a cherché. On a habité chez une sœur, un frère de lui. Et puis alors, c'était très difficile pour moi. Alors, de toute façon, il fallait taire la grossesse à ses parents, qui étaient là aussi. Il fallait se cacher. On n'avait pas de sous. C'était vraiment horrible. Et moi qui rêvais, quand tu as un bébé, il y a un beau petit lit, etc., etc. Enfin, c'était vraiment affreux. Mais mon mari était... Il n'était pas là, en fait. C'était pas son problème.
Tout ça, Moïra, c'est très loin derrière vous, maintenant.
Oui, mais même maintenant, Je suis partie, j'ai mon petit appartement, mais enfin, la famille est toujours présente, je dirais, hein, au point de vue moral. Ma belle-sœur ne me parle plus. Les neveux et nièces, il y a une nièce qui a dit qu'elle me préférait, j'étais sa tante préférée, maintenant elle ne veut plus me voir, et je ne sais pas pourquoi. Et quelquefois, j'ai envie de demander aux gens de téléphoner, d'écrire, etc. Ma belle-sœur m'a dit, je ne veux pas que tu m'écrives, parce que je lui avais écrit quelques années avant, je lui avais écrit en lui disant que tu es comme un rouleau compresseur et je ne veux pas être écrasé par toi. Et alors, elle était très vexée, elle a montré à tout le monde, mais les gens ont dit, on comprend très bien ce qu'elle a voulu dire. C'était même un peu rigolo pour beaucoup de personnes, hein. C'était un peu drôle.
Oui, sauf pour elle, là, quand même, visiblement.
Comment ?
Sauf pour elle, visiblement.
Oui, elle était assez fâchée parce que c'était le chef de famille, etc., etc. Et alors maintenant, cette belle-sœur ne me parle pas.
Mais si vous lui dites des choses comme ça, comment voulez-vous qu'elle ait envie de rester en contact avec vous?
Oui, mais enfin, j'aurais bien voulu lui parler, vous voyez?
Ah ben, il ne fallait pas mener les choses comme ça à ce moment-là. Là, vous avez fermé la porte d'office. Hein.
Oui, mais enfin, après, on s'est revus, c'était OK, mais enfin...
Elle en a gardé une rancœur, à mon avis. Hein.
De toute façon, je pense qu'ils sont tous dans la haine. Même avant que de lui avoir dit ça, elle me disait qu'elle n'aimait pas mon enfant. Il dit comment on peut dire à une mère qu'on n'aime pas son enfant.
Et de votre côté à vous, vos relations familiales, elles sont comment?
Alors, mes relations familiales, alors, je dirais qu'on vient d'une famille dysfonctionnelle. J'ai subi un attouchement sexuel de la part de mon papa. C'était assez dur, assez difficile. Et alors, quand ça s'est arrivé, on m'a envoyé tout de suite en pension. J'ai dû faire des dessins puis, qui étaient assez explicites, je pense. On m'a envoyé en pension.
Quel âge vous aviez? Après,
j'avais 13 ans. Et puis après, quand je suis revenue à la maison, je me suis battue contre mon papa. Et j'ai même écrit au commissariat et il a été convoqué au commissariat. Et je pense de là avoir une certaine force. Et alors, aujourd'hui, mes parents sont décédés, les deux. Et alors, j'ai une sœur qui avait une procuration sur le compte de la mère. Et alors, elle a tout pris. Et puis même l'appartement de la maman, qui est un petit studio, a été liquidé. Et moi, je n'ai rien eu. Je ne parle pas d'avoir de bien, hein, de toute façon. C'était avant une robe de ma maman, etc. Et l'autre sœur, quand la maman était agonisante, je venais de l'étranger, j'ai voyagé toute la nuit, j'arrive et puis je ne pouvais même pas toucher à ma maman. Et j'ai beaucoup de ressentiments quand même, bien que je ne voudrais pas en avoir parce que je ne suis pas quelqu'un d'haineux, je ne voudrais pas... Je n'ai pas envie de ressentir la haine, voilà.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas digéré tout ça.
Oui, mais alors, oui. Oui, je m'en rends compte. De toute façon, j'ai un cahier qui est plein. J'écris tout le temps des rêves, un peu de tout ça. Mais je ne sais pas comment m'en sortir vraiment parce que j'ai envie de m'occuper de mourants, j'ai envie de m'occuper d'enfants. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'avec mon mari, quand je l'ai rencontré, je voulais adopter des enfants. Je me suis dit, oh, j'aurai des enfants, évidemment, 4 enfants. Et puis on va adopter des enfants, on aura un home qui va s'appeler un tel, etc.
Mais pour adopter, il faut être solide dans son couple, hein.
Oui, je sais très bien, oui, bien sûr. Et alors, quand mon mari, quand je lui ai demandé, il m'a dit non, je blaguais. C'est quelqu'un qui blague tout le temps, il raconte tout le temps des... Enfin, voilà, c'est comme ça. Et alors, aujourd'hui, maintenant, je me débrouille, je suis très solitaire, je vis sans télévision, je dis ça exprès, parce que je n'en ai pas besoin. Évidemment, j'ai l'ordinateur, comme tout le monde.
Et la radio, j'espère.
Et la radio, l'ordinateur, la radio, oui. Et je dirais, quelquefois c'est très dur. Quelquefois je me dis, oh là là, les enfants ils sont grands, allez, tu n'es pas obligé de... Qu'est-ce que tu veux encore de ce monde, hein? C'est pas la peine. Mais enfin, j'ai quand même envie de m'occuper de Morand, de parrainer des enfants. Et puis j'ai envie de déménager, de partir à l'étranger. Et alors, c'est pas évident du tout, hein, parce que... Et j'ai envie de faire ça. Et j'ai encore quand même quelques rêves. Je me dis que ce n'est pas possible, j'ai encore beaucoup de potentiel, beaucoup de... peut-être un peu de force quand même. Je voudrais faire de belles choses, les choses que je n'ai pas pu faire il y a longtemps. Et puis alors, il y a quelque chose aussi, il y a Alors, j'ai passé Noël toute seule et je n'ai pas voulu aller voir mes enfants. J'avais déjà mon billet de train pour aller les rencontrer, je n'ai pas voulu y aller.
Pourquoi ?
Je me suis dit, oh, c'est pas grave, je ne vais pas y aller.
Mais pourquoi ?
Parce que j'ai eu un fils qui est venu me voir à la fin du mois de novembre. Il a passé un week-end avec moi et je le trouvais assez désobligeant. Il n'était pas du tout gentil. Il était, j'ai pas la Wi-Fi. Il m'a dit, tu n'as pas de Wi-Fi. Puis, regarde ce paquet de journaux par terre, etc. Enfin, il était assez désagréable. On a passé un bon petit moment. On a été au musée, etc. Mais enfin, je l'ai trouvé pas du tout gentil. Pas ce que j'espérais de lui, en fait. Bien que je l'aime beaucoup, il est un peu mon âme, je dirais. On s'entend assez bien. Évidemment.
Donc, vous avez choisi de passer le Noël toute seule.
J'ai pas choisi de passer Noël toute seule. Et voilà, j'ai fait mon petit repas, enfin. C'était même pas un repas, mais enfin, voilà. Et puis, alors, la Saint-Sylvestre, c'était... Ah oui, non, je raconte des bêtises. Alors, Noël, j'ai demandé à un collègue de travail, que je connais, et alors, je lui ai demandé, est-ce que je peux venir chez lui. Il m'a dit, bien sûr, il a un grand écran, etc. Il m'a aussi mal reçu. Il m'a assez mal reçu, c'était assez désagréable en fait. Et je le connaissais un peu, hein. Je trouve qu'il est un peu caractériellement, enfin. Et voilà, j'ai passé la Noël avec lui. Et alors j'ai essayé de lui téléphoner le lendemain matin, quand je suis partie de chez lui, pour le remercier, il ne répondait pas. J'ai téléphoné plus tard, il ne répondait pas non plus. Et voilà, et je voulais lui dire que les choses que j'avais pris de chez lui, le gâteau et des fruits, etc., que je lui avais apporté, qu'il n'a pas voulu garder.
Non, là, on rentre dans trop de détails. Là. On va aller un peu à l'essentiel.
Okay. La
marque du gâteau, ce n'est pas très important. Ce qui m'importe dans ce que vous me racontez, il y a deux choses importantes.
Oui.
Vous avez dit quelque chose de très intéressant concernant votre enfance. Vous avez été agressé sexuellement par votre père. Mais vous avez dit quelque chose d'important, vous avez dit je me suis sortie là plus forte parce que vous l'avez tenue tête en fait. Vous avez réussi à surmonter ça. Il y a beaucoup de femmes qui coulent après des histoires comme ça. Vous, vous êtes revenue et vous l'avez tenue tête, vous l'avez fait face. Cette force-là, elle est en vous et ça j'aimerais que vous n'oubliez jamais. Vous avez eu cette force-là. Maintenant, dans ce que j'entends, il y a quand même un schéma répétitif. Vous avez, et je pense que vous le dites très sincèrement, vous avez tout le temps l'impression que les autres se comportent mal avec vous.
Ça ne va jamais. Je me sens maltraitée.
Mais peut-être qu'il y a aussi chez vous un filtre. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez maltraitée par tout le monde. Est-ce que c'est la réalité ? J'en sais rien. C'est votre perception des choses. Mais peut-être que si vous percevez ça comme ça, c'est parce qu'il y a un gros mal-être qui n'a pas encore été soigné. Quand on a toujours l'impression de se faire agresser par les autres, agresser, c'est même pas, vous avez compris, c'est une métaphore.
Oui, bien sûr.
Et quand
oui,
on a
oui.
tout le temps l'impression que ça va pas, même le collègue avec qui vous passez Noël, ça va pas, votre fils, ça va pas, la famille, ça va pas, il faut peut-être vous demander s'il n'y a pas une souffrance qui vous met un masque un peu devant les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Un masque un peu gris qui fait que votre perception des choses n'est pas forcément conforme à la réalité.
Oui, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un de négatif, en fait, hein. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, de négatif. Je fais beaucoup de choses. Je vais au théâtre. Je vais au cinéma toute seule, par exemple. Je fais de la marche nordique.
Non, j'entends bien. Chez vous, j'ai l'impression qu'il y a deux parties. Il y a cette partie qui est dynamique, positive, mais il y a une partie qui est quand même en souffrance et qui voit les choses de manière un peu noire.
Oui, je me rends compte que je suis en souffrance. Oh, oui.
Ouais.
C'est pas terminé. Oui.
Alors, vous me parliez d'un psychiatre que vous aviez vu pendant quelques temps. Est-ce que là, depuis cette séparation avec votre mari, vous voyez quelqu'un ?
Alors, je vais dans sa CMP, mais c'est une infirmière avec laquelle j'ai des conversations. Je dirais, j'ai des conversations toutes les 3 semaines à peu près. Mais enfin, c'est pas une thérapie. Mais enfin, ça me fait beaucoup de bien parce que je la trouve magnifique.
J'allais vous dire, savez, quelquefois, une conversation enrichissante avec quelqu'un qui nous fait du bien, ça vaut toutes les thérapies du monde.
Ah oui, d'accord, ok.
Si elle vous fait du bien et si le fait de parler vous aide, eh bien c'est ça, pour moi, ça s'appelle une thérapie, hein, tout simplement. Même si la personne en face n'est pas forcément psychiatre ou psychologue ou psychothérapeute, une infirmière bienveillante et à votre écoute, c'est déjà formidable.
Oh oui, je m'en rends compte. Je me dis, quelle chance que j'ai. Parce que j'ai des difficultés avec les relations.
Mais oui,
j'arrive pas à trouver la bonne copine.
Mais c'est
j'avais des amis à l'étranger quand même. Hein. J'avais des amis à l'étranger, mais c'est parce que je donne beaucoup. J'ai l'impression de donner beaucoup, vous voyez. Mais avoir une bonne amie sur qui on peut compter, ben, j'ai perdu une amie au mois de juillet, par exemple, et un ami aussi au mois de... il y a à peu près 3 mois, vous voyez. Et alors, j'ai pas d'autre. J'ai pas d'autre, vous voyez. Et j'ai une amie à l'étranger qui m'a téléphoné ce matin pour mon anniversaire. Une autre aussi. Et oui, c'est,
mais
j'aimerais que ma vie soit un peu plus belle.
Je vais vous dire quelque chose, Moira. Je me demande si vous savez, et ce n'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste une question, si vous savez recevoir les choses. Accepter, c'est... Comment vous dire ça? Vous ouvrir aux autres. Je vais vous dire un petit truc tout bête. Vous me parlez beaucoup de solitude. On a démarré cette émission avec vous. On avait préparé une chanson joyeuse anniversaire. Vous n'avez même pas eu l'air d'y réagir. Comme si quelque chose de positif ne méritait pas la peine qu'on se pose. C'était pour vous ce moment-là qu'on avait réservé au début de notre conversation. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, j'ai entendu.
Vous êtes passé dessus comme si ce n'était pas important, comme si vous étiez refermé dans votre coquille tout de suite.
Ah non, parce que vous savez, quand on commence l'émission...
C'est le trac.
Le trac. Je ne m'imaginais pas du tout qu'on allait m'appeler, vous voyez. J'ai appelé...
Si, vous aviez avant dit, il y a une petite heure quand même qui vous a dit qu'on allait démarrer l'émission avec vous. Vous saviez que vous alliez passer
vous voyez,
ce soir.
J'ai fait des petits mots, j'ai écrit ce que je veux dire, etc. Mais enfin, c'est quand même assez angoissant, on ne peut pas s'y imaginer. Hein. C'est assez angoissant. De toute façon, j'aime beaucoup votre émission, c'est pourquoi je me suis dit, je vais téléphoner. Je me suis dit, non, je ne vais plus répondre au téléphone, vous voyez. J'étais quand même assez angoissée, hein. J'avais la frousse.
Non, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est symptomatique du fait que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, parce qu'on vous a fait beaucoup de mal, les autres vous ont fait beaucoup de mal. Et peut-être pour l'instant, les portes et les fenêtres sont fermées et que c'est compliqué la relation avec les autres quand c'est comme ça.
Enfin, j'ai l'impression que les gens qui m'aimaient beaucoup, ils sont plus là.
Alors, l'impression, est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité, justement?
Non, c'est une réalité. Hein. Cette amie qui est décédée au mois de juillet, il y a une autre aux États-Unis qui est venue me voir. Elle est décédée aussi et j'ai l'impression... Je ne me rends pas compte que les gens m'aiment, vous voyez? On a besoin de moi. Je suis quelqu'un dont on a besoin, mais quelqu'un qui m'aime, je ne sais pas. Même, vous voyez, c'est difficile.
Vous n'arrivez pas à le percevoir.
Oui, j'arrive pas à percevoir quand même, voilà. Et pourtant, je m'aime bien. Je me trouve pas trop laide, pas trop désagréable comme personne. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de désagréable, mais en fait, c'est quand même... Peut-être que je mets la barre un peu trop haut, je ne sais pas. C'est pas simple. Mais je me dis, aucune vie n'est simple. Et vous voyez, quand j'ai écrit à aujourd'hui à une copine, je lui disais que elle et moi, on est des gens très bien et on souffre. Et je me dis, après tout, il y a des enfants qui souffrent aussi. J'ai travaillé dans un service de cancérologie avec des enfants. Je me dis, comment ça se fait que des enfants souffrent aussi? Et après tout, c'est comme ça. Vous voyez ?
Vous me disiez que vous avez envie justement de travailler avec des enfants ou des personnes âgées. C'est juste une envie ou c'est quelque chose qui se concrétise là cette année ?
Alors voilà ce qui se passe, c'est qu'on me propose de m'engager pour une année. Et comme j'ai l'intention de déménager, je ne pourrais pas leur dire que je m'engage pour une année si je pense partir. Par exemple pour les enfants, je comprends très bien. Mais pour des mourants, je me dis ben c'est pas tellement grave, vous voyez ?
Et là aussi on vous demande une année forcément ?
On me demande une année d'engagement.
Mais vous ne savez pas du tout quand est-ce que vous allez déménager?
Non, je ne sais pas, non.
C'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire que la vie se vit au présent. Hein. Et ne pas commencer des projets, ne pas mettre en place des projets ou des envies en se disant qu'après, peut-être, je vais déménager. Vous ne savez pas ce qui va se passer derrière.
Alors oui, je suis en train de me battre un peu avec l'idée de m'engager quand même, vous voyez?
Oui, c'est peut-être plus ça le problème, oui. Ouais.
Enfin, c'est un peu difficile. Par exemple, une question toute bête. J'ai besoin de lunettes. Alors, j'ai déjà fait faire 3 devis. Alors, il y a tous les prix et j'arrive pas à me décider. Mais je me dis, j'aurai une copine qui viendra avec moi pour choisir les lunettes. Je les ai déjà choisies. Et des choses comme ça, des choses toutes bêtes, vous voyez. Quand on vit seul, c'est pas évident. J'avais besoin de m'acheter un four. J'ai dû galérer à ce que je m'achète un four. Un peu plus cher, un peu moins cher. C'est difficile, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est pas évident hein, de vivre seul. Bien que je gère très bien ma solitude, de toute façon. Je la gère très bien, j'ai l'impression.
Je ne sais pas. Oui, sans doute, parce que vous avez une part de vous qui est très forte, et on en parlait tout à l'heure. Vous avez cette force de caractère, cette énergie. Mais il y a une part de vous blessée qui a quand même beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres. Qui est quand même persuadée que les autres vous en veulent, alors que pas forcément. Il y a peut-être autour de vous des gens qui pourraient être vos amis maintenant. Il faudrait vous réconcilier. Et il y a peut-être une colère en vous qui n'est pas encore sortie.
Peut-être, oui, peut-être. Vous voyez, j'étais par exemple aux États-Unis chez une belle-sœur qui m'a invitée, elle m'a dit de venir, etc. Mais je lui ai servi d'infirmière. Et puis alors, j'ai l'impression qu'elle me surveillait un tout petit peu. Elle a des grandes armoires avec beaucoup de linge, etc. Et tout d'un coup, je la voyais le matin en train de me regarder. Et j'avais l'impression, ce que j'ai fait, j'ai laissé ma valise ouverte pour montrer que je n'avais rien pris. Vous voyez ?
Mais oui, mais c'est le même schéma. Vous me répétez le même schéma, en fait. À chaque fois, vous avez l'impression qu'on vous aime pas, qu'on vous traite mal, qu'on vous surveille, que ça va pas. C'est là où je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à travailler avec cette infirmière avec laquelle vous parlez. Essayez de comprendre pourquoi vous avez toujours cette impression qu'on vous en veut.
Ok.
Quelle est cette blessure qui vous fait réagir comme ça et qui vous fait vous surprotéger en fin de compte? Comme s'il y avait une partie de vous qui faisait un pas en avant et l'autre partie qui faisait un pas en arrière à chaque fois.
Oui, c'est vrai, je m'en rends compte, oui. Oui, je m'en rends compte de ça.
Et avouez qu'on avance mieux quand on ne fait que des pas en avant. Hein.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Oui, 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 oui.
Donc, ça serait intéressant.
Je ne suis pas quelqu'un de peureux, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de peureux.
Non, ça, j'entends bien. C'est pas ça le problème. À mon avis, c'est plus des blessures qui n'ont pas été soignées encore, qui vous bloquent.
Ok, alors je vais en parler à cette personne pour essayer d'avancer, alors.
Je pense que ça serait une bonne chose. Parce qu'il y a une belle énergie en vous et ça vaut le coup de la faire sortir, cette belle énergie-là. De vous tourner vers vos envies et pas vers vos peurs ou vos colères.
D'accord. Hein? Je vous remercie infiniment.
Merci de votre appel, Moïra. Je vous embrasse.
Ok, merci, moi aussi.
Au revoir. Et j'accueille maintenant Marie-Vonne sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Marie-Vonne.
Bonsoir. Bon, je suis ravie de vous avoir parce que j'ai vraiment des gros problèmes.
Alors, je vous écoute.
J'ai bien été aidée par un psy et un psychologue qui, hélas, s'est arrêté de travailler, qui m'aidait beaucoup. Alors, je vous explique en gros. Voilà, je me suis mariée. Pour pouvoir obtenir l'achat d'une maison, j'ai suivi mon mari pendant 10 ans en déplacement. Nous avons eu 2 enfants qui nous ont... on a pu construire cette maison. Et on a acheté un terrain aussi dans l'Ardèche de 5 000 m² qui est devenu constructible. Mais par rapport à la situation géographique, on a acheté à Saint-Albin. On a construit notre maison à Saint-Albin-du-Rhône. Donc, j'ai eu 2 enfants. Alors, le premier qui était toujours avec moi, constamment après moi, après ma jambe et tout, mon mari a continué les déplacements. Et le malheur que j'ai eu, c'est que j'avais une belle-mère qui ne m'acceptait pas. Donc, qui me les a toutes faites. Qui est venue me battre chez moi, qui est venue... Enfin, c'était une horreur. Et j'ai mon deuxième fils est né handicapé gravement. Donc j'ai décidé de suspendre mon travail pendant 1 an, puisqu'il ne devait pas vivre. Et puis finalement, il a 40 ans et il est toujours là.
Qu'est-ce qu'il avait, ce petit garçon, à la naissance?
Pardon?
Qu'est-ce qu'il avait, ce petit garçon, quand il est né?
Voilà, il est né avec une hydrocéphalie, malformation de la colonne vertébrale. Après, il a eu une stomie urinaire. Il est paraplégique. Et on peut dire que c'est une chance parce qu'il avait un quotient intellectuel de 17 à 5 ans. Alors, je m'en suis occupée, je l'ai gardé avec moi, je l'ai élevé, je lui ai même fait l'école pendant 1 an, parcours par correspondance. Je suis arrivée à trouver une école qui le prenait, donc il partait le matin et rentrait le soir, tout allait très bien. Et puis, il nous est arrivé un gros pépin, c'est-à-dire que son père a perdu son boulot. Et il a décidé que c'était un chien, pendant 1 an, il faisait que pleurer, il faisait rien. Donc, moi, je retournais travailler, je m'occupais du jardin, je m'occupais de la maison, je m'occupais de tout. Et puis, ce qui devait arriver, arrivait, je suis tombée malade.
Oui.
Donc, on m'a ramenée de mon travail, et la colère m'a pris. Je lui ai dit, écoute, tu te lèves, tu te bouges. Tu cherches du travail parce que moi j'en ai bien trouvé. Alors je vois pas, il m'a répondu, si t'es pas contente, la porte est pas fermée. Alors il faut que je vous dise que je suis un bélier. Donc je l'ai pris au mot,
faut
j'ai
pas vous
pris
dire
mes
deux
enfants.
Oui.
Je suis allée voir le maire d'une ville à côté, pas le maire de notre ville, hein. Une maire d'une ville à côté qui a compris ma détresse, qui m'a aidée à avoir un appartement. Enfin j'ai été beaucoup, beaucoup aidée. pour pouvoir avoir un appartement, trouver du travail. J'ai fait des stages, j'ai un diplôme en sanitaire et social. Et puis j'ai été voir un député qui, lui, m'a aidé à trouver du travail dans une école. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai fait des, ce qu'on appelait à l'époque des CES. Et puis j'ai passé des concours internes et puis je suis arrivée à être surveillante. Donc, tout allait bien pour moi. Seulement, ce que j'avais pas prévu, c'est que mon mari était manipulé par sa mère. Donc, il me suivait tout le temps. Alors, j'ai déposé pratiquement tous les deux jours. J'étais au commissariat de police pour déposer plainte. Il me crachait dessus. Il venait faire du scandale à mon travail. On m'a demandé de partir parce que, bon, c'était pas possible.
Attendez, Marie-Val, les enfants, tout ça, ils étaient où?
Les enfants, ils étaient avec moi.
Et comment ça
les
se passait
deux enfants étaient avec moi. Et mon fils aîné était manipulé par sa grand-mère qu'elle a jamais voulu voir. Elle ne le connaissait pas. Hein. J'ai une belle-mère qui n'a pas voulu connaître ses petits-enfants, qui m'a même téléphoné pour me dire que son fils ne pouvait pas avoir engendré un débile quand mon fils Ludovic est né handicapé. Bon, ben moi, j'y pouvais rien, elle non plus, mais enfin, c'était elle m'a remonté le moral comme ça. Et donc, finalement, mes enfants étaient avec moi et mon fils aîné. Ben, vous savez, quand vous travaillez beaucoup, j'avais trouvé une petite nounou qui était à côté de chez moi, qui s'occupait de Ludovic quand il était rentré de l'école. Elle était venue voir pour lui changer la poche, pour le baigner. Enfin, il était en pyjama le soir. Vraiment, j'en étais très contente. Et mon fils aîné, ben, il a commencé à fréquenter des copains pas très bien et il s'est mis à voler. Alors, il avait 19 ans. Hein. Donc, la première fois, ben, j'ai essayé de discuter avec lui. La deuxième fois, c'était toujours plus important. Un jour, il a commencé à découcher en prenant ma voiture, ce qu'il faisait jamais quand il était avec son père. Et la troisième fois, ben, c'était tellement important qu'on s'est retrouvés. Alors moi, je devais être au commissariat de Roussillon parce que mon fils avait volé une voiture. Et après, je devais être en même temps aller à Annonay où mon fils handicapé était à l'école, où ils avaient fait un voyage en classe verte. Et il avait été ébouillanté sous la douche, donc vous voyez, je ne pouvais pas me couper en deux.
Oui.
Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé son père, je lui ai dit, écoute, tu vas au commissariat, tu te débrouilles avec Jérôme, et moi je vais régler le problème avec Ludovic. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis alors, j'étais pas du tout d'accord pour la relation qu'il avait avec ce gamin, qui l'entraînait qu'à faire des conneries, mais bon, il se trouve que son père était prothésiste dentaire, donc le fils, mon mari choisissait les amis de mon enfant en fonction de la relation des parents. Alors, bon, j'ai laissé tomber. Et puis, comme il continuait à faire des conneries, donc j'ai appelé l'assistante sociale du collège où il était. Il était dans un lycée automobile. Donc, je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez, moi, je rentre à 9h30 du soir. Il ne me fait que des conneries. Qu'est-ce que je peux faire? Puis, je lui ai dit, moi, j'ai trouvé des trucs que moi, je ne vais pas acheter chez moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle m'a dit, ce que vous faites, vous le renvoyez chez son père quelque temps, ça lui fera les pieds. Et c'est ce que j'ai fait.
Oui.
Alors, j'ai appelé la police parce que là, il me venait dessus. Il était ceinture marron de judo. Hein. Il me venait dessus. Il m'a menacé plusieurs fois de me frapper. Donc, j'ai appelé la police. J'ai fait appeler son père. Son père l'attendait en bas de l'immeuble et il a emmené mon fils. Il a emmené mon fils aîné vers son père. Alors, il a dit à tout le monde que je l'avais foutu dehors à 11h du soir, ce qui est faux. Mais ça, c'est pas grave. Mais, attisé par la belle-mère, si vous voulez, ma belle-mère qui n'avait jamais voulu s'occuper de mes enfants, qui ne les connaissait pas, elle n'aura jamais fait un Noël, jamais un anniversaire, jamais rien. Et elle a joué là-dessus en disant ben, je vais les faire séparer parce que c'est ce qu'elle voulait. Et moi, j'avais décidé que je ne reviendrais pas. Et donc, mon fils aîné, pour se venger, il avait gardé les clés de mon appartement. Et un jour, je suis rentrée du travail, mon gardien m'a appelé. Il m'avait déménagé mon appartement avec son père et ma belle-mère. Et pour que son père n'ait pas d'ennui, il s'est accusé lui-même. Donc, j'ai la preuve de ça.
Déménager, ça veut dire que quand vous êtes rentrée, c'était vide ?
Déménager tout mon appartement. Je suis rentrée, je n'avais plus rien. C'est-à-dire que son père a gardé la maison. Il voulait la maison, je m'en fous de la maison. Je m'en fous de tout parce que, comme je dis, quand on meurt, on ne rapporte pas avec soi. On n'a qu'à faire les choses comme il faut quand on est vivant. Comme ça, ils ne se battent pas quand on meurt.
Mmh.
Et donc, finalement, il m'a déménagé l'appartement. Il s'est accusé. On a tout retrouvé. Alors, il a dit que c'était pas vrai. Puis après, on a retrouvé tout dans le sous-sol de notre maison. Et je me rappelle qu'il y a un gendarme qui m'avait demandé si mon fils faisait de la couture parce qu'il a dit qu'il avait pris des choses qui étaient à lui et que je ne voulais pas lui rendre, alors que c'était faux. Par contre, le gendarme m'a dit « Est-ce que votre fils fait de la couture ?» Et je le regarde, je dis « Je ne sais pas, je ne crois pas. » Il me dit parce qu'il a piqué une machine à coudre. Donc, vous voyez, ils ont bien vu que c'était du cousu de fil blanc, c'était une vengeance. Et puis, alors après, si vous voulez, il me faisait tellement du scandale, il me suivait, son père, tout le temps. J'ai 49 témoignages, pas de n'importe qui, j'ai été battue dans la rue, j'ai pris un architecte que je connaissais pas, que j'ai mis entre mon mari et moi, qui m'a porté secours, qui m'a emmenée chez le médecin, qui a été faire une déposition spontanée au commissariat pour dire j'ai sauvé une dame, voilà, il se passe ça et ça.
Mais pourquoi il faisait ça, votre mari? Qu'est-ce qu'il voulait?
Eh bien, mon mari voulait que je revienne.
Ah oui.
Seulement, vous comprenez, moi, je veux bien... mon mari, on est resté mariés 22 ans. 22 ans. Il est venu, il n'avait rien du tout. Absolument rien. Il n'avait même pas de quoi s'acheter un costume. Et il a tout gardé. C'est-à-dire qu'il m'a harcelé, poussé par sa mère, et ça, je le sais, par le notaire. Il a fallu tellement, il me saoulait, qu'il me suivait de partout, il m'insultait, il me traitait de tous les noms. Et finalement, eh ben un jour, je lui ai dit, tu la veux ta maison? Eh ben viens, on va chez le notaire. Et on a été chez le notaire, et j'ai tout donné à mes enfants, avec le droit d'utilisation. Enfin, le père avait le droit de l'habiter, d'entretenir cette maison, mais il n'avait pas le droit de la vendre. Et ça revenait à nos deux enfants. Parce que je me disais, on ne sait jamais, s'ils se remarient, j'ai pas envie que mes gosses, ils aient rien. Parce que cette maison, on l'a fait nous-mêmes. Donc moi, je sais ce que c'est que de faire du béton, je sais ce que c'est de traîner des brouettes, je sais ce que c'est de monter des tuiles sur un 3x3, parce que c'est très difficile, c'est très lourd. Enfin, vous voyez, donc voilà. Alors, il faut savoir que ce monsieur, il est fâché avec tout le monde. Et il a gardé la maison où on habite. J'ai pas le droit de m'approcher parce qu'il me prend en chasse. Donc, je suis comme si j'étais interdite de séjour. Et alors, ce qu'il a fait... Il a refusé d'assumer, donc il a été condamné au tribunal. J'ai obtenu l'autorité parentale toute seule de mon fils handicapé. Il a attendu que mon fils ait presque 18 ans moins 4 mois. Et là, il l'a enlevé à l'hôpital.
Comment c'est possible, ça?
Pardon?
Comment c'est possible de l'enlever dans un hôpital?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça s'est fait. Et tout ce que je vous dis, je peux le prouver. Donc, il a enlevé mon fils à l'hôpital. Parce que la juge d'enfant qui n'arrivait pas à le calmer, il n'a jamais payé la pension alimentaire auquel il avait été condamné. Pour son fils, 300 francs, c'était des francs à l'époque, 300 francs par mois, il les a payés qu'au bout d'un an contraint et forcé. Donc, si vous voulez, il a tout fait. La juge m'a convoqué, m'a dit, écoutez, vous ne pouvez plus vous protéger parce qu'il me suivait en voiture, j'ai failli avoir des accidents, enfin bref. Moi, j'avais des collègues de travail qui venaient avec moi parce que ma patronne avait décidé que j'étais en danger, donc il fallait que quelqu'un m'accompagne. Et bien, j'en ai une qui a fait pipi dans la voiture tellement elle a eu peur. Vous voyez, il m'a cassé les pieds pendant des années. Et finalement, à la sortie, donc la juge, elle me convoque, elle me dit, écoutez, moi, Ludovic était terrorisé. Elle me dit, écoutez, ce que moi, je vous propose, il y a deux solutions. Soit vous arrêtez de travailler et on vous aidera, ben, je sais comment on aide les parents handicapés, hein, j'ai compris ma douleur, ou soit vous continuez à travailler, mais il faut protéger Ludovic, et Ludovic, on l'a mis dans une maison d'handicapés, et j'étais d'accord. C'est-à-dire que le gosse, il était moins avec moi, donc même s'il me suivait en voiture, que j'ai un accident, c'est pas grave. Il faut savoir que son père a essayé de me foutre dans le vide. J'ai un chauffeur de camion qui s'arrêtait et qui m'a sauvé la vie. Ça n'a pas été entendu par le tribunal. Tout ce qu'on me disait, oh, c'est fusionnel. Attendez, j'ai pas d'argent, c'est vrai que j'ai pas d'argent. Ça m'a coûté la peau des fesses. J'ai divorcé, j'ai quitté mon mari en 91 et en 95, il refaisait appel à Grenoble et j'ai tout perdu. Entre-temps, il a enlevé mon fils, il a eu le culot de faire une lettre au juge d'enfants pour lui dire « Mon gosse est chez moi, la maison, elle est faite pour lui, sans en apporter la preuve, parce que ça, c'est pas vrai. » Là, le juge, on n'a pas ordonné d'enquête, on n'a rien fait du tout. Résultat, ça fait 20 ans que je ne sais pas où est mon fils. Il a coupé les ponts, je ne sais pas où il habite, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas s'il est vivant. Tout ce que je sais... C'est qu'on a manipulé mon gamin pendant 4 mois, le temps que ça passe au tribunal. On lui a persuadé que je l'avais abandonné. On l'a persuadé que j'en voulais plus. On l'a persuadé que je l'aimais pas. Et il avait dit au juge d'enfants, il faut que je protège ma maman parce que mon papa, je suis hémophile. Moi, disons, quand j'ai une anesthésie, j'ai mon sang qui ne coagule pas. Donc, j'ai fait une hémorragie de 2 mois pour une histoire de vésicule. J'ai fait un coma de 2 mois. Donc, mon fils avait été choqué par ça. Et donc, son père lui disait, je vais attraper ta mère, je vais l'attacher à un arbre, je vais la couper avec des lames rasoirs et je vais la regarder mourir. Et Ludovic, qui avait été choqué par ces hémorragies que j'avais faites, si vous voulez, il avait dit ça au juge d'enfer, et le juge d'enfer l'a traité de menteur. La juge d'enfer a fait sortir mon fils de l'hôpital où il était en soins intensifs pour l'interne dans une voiture banalisée.
Marie-Vonne, c'est un peu confus là, vous partez un peu dans tous les sens.
Alors dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez pas?
On va devoir faire une pause, je vous récupère après les infos s'il vous plaît, d'accord?
D'accord.
Merci, vous ne quittez pas,
merci,
je vous récupère après les infos, à tout de suite.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à passer ensemble. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler tout au long de l'émission en composant le 3921. C'est Amandine et Hassan qui sont là pour décrocher au standard d'Europe 1. Si vous avez envie de participer à l'émission par SMS, je vous rappelle que c'est simple. Vous faites le 73921 en commençant bien par le mot nuit.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Alors, je reprends cette conversation avec vous, Marie-Vonne, en vous demandant d'être un petit peu plus concise.
Pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir, en fait? D'accord. Alors, il faut que je vous explique pour que vous compreniez ma demande. Ma demande, elle est simple. Je voudrais savoir comment je peux savoir ce qu'est devenu mon fils, parce que je ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant. Je ne sais pas où il habite. Je ne peux pas m'approcher de ma maison parce que le père me prend en chasse. Donc, je n'ai pas moyen de le savoir. Alors, comment est-ce que je peux faire? Je l'ai quand même élevé, je l'ai quand même assumé, toute seule financièrement pendant 5 ans. Hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir comme biais pour, même s'il ne veut pas me voir parce que je ne veux pas le perturber. Vous savez, un gosse qui est opéré d'un spina bifida, c'est souvent, on leur met des tuyaux qui sont reliés au cerveau et à la colonne vertébrale, puisque la colonne vertébrale est cassée. Donc, le liquide céphalo-rachidien ne s'écoule pas comme il faut. Donc, voilà. Alors, je voudrais avoir de ces nouvelles. Alors, qu'est-ce que je peux faire?
Le seul moyen, c'est d'avoir une aide juridictionnelle. Il vous faut un avocat?
Il me faut un avocat.
Bah, là, si toutes les portes sont fermées.
Le défenseur des droits à Saint-Étienne. Je l'ai vu 2 fois. La première fois, je lui ai donné le dossier, je lui ai expliqué. J'ai dit, moi, je ne veux pas le perturber parce que je sais que s'il dit qu'il ne veut plus me voir, parce qu'il dit qu'il ne veut plus me voir, et il dit que je sais que c'est pour me protéger. Je sais que son père lui avait dit, si tu restes avec ta mère, je la tuerai. Donc, je le sais, ça. Je ne lui en veux pas, mon fils. Je ne lui en veux pas du tout. Mais je voudrais savoir ce qu'il devient, madame. Je lui ai appris à lire, je lui ai fait l'école pendant 1 an chez moi. Je me suis bagarrée de partout pour essayer de l'insérer dans le milieu des handicapés. Je lui ai payé des voyages à la neige. Enfin, tout ce qu'une maman fait normalement pour son enfant, sans l'aide du père. J'ai fait un trousseau de 9000 francs à l'époque pour le mettre dans cette école spécialisée. Il n'a pas voulu participer. Donc, le père n'a jamais voulu participer. Donc, moi, je m'en fous de l'argent. Je m'en fous complètement.
Non, j'ai bien compris, mais vous avez des droits. C'est votre fils, vous avez des droits. Et ces droits, pour les faire valoir, il vous faut un avocat.
Il faut que je prenne un avocat.
Oui.
Voilà, c'était surtout ça, parce que je vous écoute pratiquement tous les soirs. Et je trouve tellement, dans vos réponses, un soulagement sur beaucoup de choses que j'entends, parce que Dieu sait s'il y a des gens en détresse. Et je suis suivie par un psychiatre et je suis suivie par un psychologue.
C'est pour ça que
beaucoup. Et le pauvre, il a été muté, donc voilà.
Mais il faut que vous en trouviez un autre, parce que Marie-Vonne, je pense que vous avez beaucoup besoin de parler.
Oui.
Et il faut vraiment que vous trouviez un autre psychologue. Mais il y a deux choses dans votre histoire. Il y a un besoin, effectivement, on sent, d'évacuer tout ça. Et là, je vous invite vraiment à reprendre une thérapie plus régulière.
Oui.
Et il y a un besoin purement juridictionnel, où si vous avez besoin de prendre des nouvelles de votre fils, d'avoir un droit de visite, ou au moins un droit d'information, faites-vous aider.
Voilà.
Faites-vous aider. Allez voir à la mairie, vous avez des aides juridiques. Allez demander à des assistantes sociales qu'on vous oriente vers des aides juridiques.
D'accord.
Il y a des avocats qu'on peut avoir, si ce n'est gratuitement, en tout cas pour pas cher du tout, si vous êtes bien orienté.
Oui, d'accord. Hein,
aide sociale et juridique pour avoir récupéré vos droits. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de forcer votre fils à quoi que ce soit,
je
n'entends
pas
bien.
Le forcer. Mais au moins, avoir des nouvelles. Parce que je sais qu'il va être terrorisé. Mais si vous voulez, je voudrais savoir ce qu'il est devenu. Est-ce qu'ils l'ont mis dans une maison? Je ne sais pas où il habite. J'ai téléphoné.
J'ai bien compris, Marie-Vonne. C'est pour ça qu'il vous faut quelqu'un qui vous aide à retrouver votre place de maman.
Ah, voilà. Oh là là. Merci beaucoup. Je vous remercie parce que je ne sais plus où m'adresser. J'ai perdu le sommeil. Ça ne va plus, quoi. Je ne veux plus voir personne. Vous voyez, je me retranche en moi parce que je me rends compte.
Vous êtes en souffrance,
moi, il y en a plusieurs
évidemment.
Qui m'ont dit tu nous emmerdes avec ton gosse. Ça fait des années. Oublie-le. Vis ta vie. Ben non, je ne peux pas.
Mais comment voulez-vous qu'une maman oublie son fils, Marie-Vanne?
Non, je ne peux pas l'oublier. Non, ce n'est pas possible.
Bien sûr que non, vous n'allez pas l'oublier. Prenez soin de vous avec un thérapeute et faites-vous aider sur un plan du droit, sur un plan juridique pour reprendre cette place-là qui est la vôtre. C'est important.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse et d'avoir été patiente parce que c'est vrai, pour moi, c'est tellement clair que j'ai l'impression que les gens me suivent et puis c'est vrai que je perturbe beaucoup. Le psychologue, au début, a eu beaucoup, beaucoup de mal et puis... Bon, il arrivait à me rassurer, à me dire « je sais que vous allez y arriver, vous êtes têtu parce que je suis un bélier, mais je sais que vous y arriverez, mais ça me hante de plus en plus. » Et puis là, je suis de plus en plus malade, j'ai quand même 73 ans, et je voudrais pas mourir avec l'idée qu'il pense que je l'ai abandonné, parce que ça, c'est pas vrai.
Alors reprenez votre place de maman et faites-vous aider pour ça.
Je vous remercie de votre aide et de votre gentillesse. Merci beaucoup. Et puis, elle est très bien, votre émission. Oui. Vous êtes vraiment tous bien gentils.
Merci,
voilà,
Marie-Vanne.
Je vous présente mes voeux pour cette année.
Je vous embrasse et je vous souhaite une belle année 2019 aussi.
Merci, madame. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Et j'accueille maintenant le premier homme de la soirée sur cette libre antenne. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, ben merci à vous. Hein.
Alors, dites-moi, je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène vers moi ce soir?
Alors, ce qui m'emmène vers vous, c'est que je suis dans une situation qui me dépasse. C'est-à-dire que je cache ma situation professionnelle et financière à ma compagne depuis maintenant quelques mois.
Ah oui? Que...
C'est-à-dire que j'ai été limogé de mon précédent emploi. Donc, la chose, c'est que je crains de lui annoncer la situation. J'ai peur de sa réaction.
Attendez, quand vous dites limogé, pourquoi vous parlez de limogé et pas licencié?
Eh bien, parce que ça fait partie, si vous voulez, d'un grand plan, hein, comme on appelle ça. Sur l'échelle nationale, après, voilà, et mon agence a été touchée. Alors moi, étant donné que je faisais partie des plus jeunes, hein, je pensais être épargné par ce plan, et je pensais que ça allait toucher surtout ceux qui partaient le plus vers l'âge de la retraite.
De la retraite ou de la pré-retraite,
et oui. Et alors que j'étais dans la force de l'âge, je suis un petit peu... Je suis stressé par la situation générale. Et
vous êtes tout jeune, vous êtes tout jeune, Alain.
Ça peut se ressentir. Oui. En tout cas, je pense à l'être. Et c'est vrai qu'on a cherché à me faire croire que je ne l'étais pas. Parce que, voilà, moi, je m'attendais à ce que... Bon, j'étais au courant de ce plan de... Comment dirais-je? J'étais au courant depuis très longtemps. Et je m'attendais à ce que je ne sois pas, je disais, pas partie de l'effectif.
Vous n'étiez pas préparé du tout à ce que ça vous touche, vous, quoi.
Et ça m'étouche beaucoup. Mmh. Et à la rigueur, ça ne serait pas si difficile si, en plus, je n'avais pas mené de front, donc déjà cette situation difficile pour moi, et également le fait donc, de devoir mentir à ma compagne. Hein, parce qu'à la rigueur, ça ne me dérangerait pas de lui dire si je n'avais pas quelques craintes par rapport à notre confiance mutuelle. Parce que, par le passé, il y a pu y avoir quelques petits éléments, quelques petits faits de...
Racontez-moi, parce que là, dit comme ça, c'est un peu bizarre à comprendre. Vous perdez votre travail, vous ne lui dites pas, c'est ça l'idée?
Eh oui, sauf que la chose, c'est que malheureusement, il faut bien que je rentre à la maison, que je respecte et que je fasse tout comme, si vous voulez, tout comme si j'avais conservé mon emploi. Et alors avant, c'était chose aisée, puisqu'il me suffisait de rentrer à la maison à mes heures habituelles, hein, comme si rien n'avait changé. Sauf que nous attendons un enfant, Ce qui fait que ma compagne, depuis quelques semaines, est en congé prénatal et donc reste la plupart du temps à la maison.
Mais attendez, mais financièrement, comment est-ce que vous pouvez lui cacher qu'il n'y a plus de salaire à la fin du mois?
Eh bien, tout simplement, au niveau des dépenses, de toute manière, ça faisait quelques mois, enfin, même, on n'a jamais été très, très dépensier. Moi, je suis sur le chômage. C'est pour ça que ça ne va pas durer, donc il faudra forcément que je trouve une solution assez rapidement.
D'accord, donc là, concrètement, vous avez fait semblant, vous avez fait semblant de partir travailler, semblant d'entrer au boulot.
Et je fais toujours semblant.
Mais pourquoi? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui vous fait peur?
Sa réaction. Sa réaction, et c'est vrai que, comment dirais-je, moi, j'ai toujours pensé au début assez docile, enfin, assez douce, voilà, c'est une femme qui sait ce qu'elle a à faire. En général, elle évite d'interagir et d'intervenir sur ma vie professionnelle. Mm-hmm. Elle sait que c'est pas son domaine. Voilà, donc ça, elle a toujours su, sauf que moi, j'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance, mais c'est plus fort que moi. Et comme il y a pu avoir par le passé une petite embrouille entre elle et moi, voilà, qui a abouti sur une rupture de confiance, sinon définitive, au moins temporaire, mais je ne sais pas ce qu'il en a actuellement.
Oui, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu là le nœud du problème, non? C'est quoi cette petite embrouille dont vous parlez?
Oui, je dis ça comme ça, mais sans le dire vraiment.
Oui, parce que j'ai l'impression que c'est pas si petit que ça, cette histoire-là.
Eh bien, oulala, oui, non, c'est assez anodin, hein, c'est quand même assez anodin. C'est-à-dire que je l'ai soupçonné de reprendre contact avec son ex-compagnon. Mm-hmm. Voilà. Personne sans envergure, d'après moi. Hein, salarié au SMIC, alors moi, c'est ce que je pensais. Hein, et je pensais qu'elle ne serait jamais qu'elle n'aurait jamais un comportement pouvant l'amener à revenir vers son ex-compagnon. Mais lorsque j'ai appris qu'elle reprenait contact avec lui, souvent, même tous les week-ends, je me suis mis à créer, si vous voulez, un compte Facebook. Et reprenant l'identité de... Enfin, inventant une identité, soi-disant, d'une amie à elle, à ma compagne. Mmh. Et je suis allé contacter cet ex-compagnon pour savoir ce qu'il pensait d'elle. Mmh. Voilà. Et ma compagne a appris voilà, que ce manque de confiance, elle l'a appris. Elle a appris donc que j'avais créé ce petit personnage voilà, pour essayer d'en savoir plus. Et ça lui a pas plu. D'ailleurs, il y a eu un petit break de un mois.
Mais en réalité, il y avait quelque chose entre cet ex et elle ou pas du tout?
Bah, absolument pas. Enfin, dans tous les cas, de ce que moi j'ai pu voir, enfin,
rien de plus qu'un contact. De ce que j'ai pu percevoir.
Ce que j'ai pu percevoir, en tout cas, pas grand-chose. Donc, alors, est-ce que je suis peut-être un petit peu, comment dirais-je, mégalomane, un petit peu...
Parano, un plutôt, plutôt que mégalomane.
Paranoïaque, oui, mais enfin, ça va de pair, en général. Donc, ça...
Parce que bon, en tout cas, vous mégalo, avez eu peur.
C'est un reproche qu'elle m'a également fait. Elle m'a déjà fait ce reproche aussi. Enfin, c'est... Voilà. Parce que peut-être j'interagis trop, justement. Enfin, j'ai trop tendance à vouloir m'occuper de ses affaires. Cette petite histoire à elle qui apparemment ne me concernerait pas. Sauf que moi, j'ai tendance à me sentir concerné par beaucoup de choses. Je suis son compagnon, c'est quand même pas rien. Hein.
Ça, voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
On est ensemble depuis fin 2015.
Oui, donc c'est
fin 2015, mais on s'était déjà... Oui, mais on se connaissait déjà, depuis assez longtemps. C'est-à-dire que notamment, même ça fait plusieurs de longues années. Quoi. Voilà, quoi. Qu'on s'est connus, on s'est perdu de vue ensuite, entre-temps. On s'est vraiment connus, enfin, notre première rencontre, tout à fait simple, hein, tout à fait banale, dans un cadre... enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'étais pas amoureux d'elle à l'époque, elle non plus, voilà, on n'avait rien envisagé, on se connaissait simplement. Voilà, on avait 22, 23 ans. Notre première rencontre date de 2006, je me rappelle, c'était l'été. Et pendant... Bah, c'était... la Coupe du Monde, vous savez, 2006.
Oui, alors ça, c'est pas des références que j'ai vraiment. Je suis désolée.
Bah, vous savez, c'est lorsqu'il y avait la panacouta de Zidane.
Ah oui, ça me dit quelque chose, effectivement.
Oui. Ouais. Vous savez que on s'est rencontrés ce soir-là. Et,
d'accord.
Et voilà. Mais après, depuis, voilà, on s'est vu, on s'est perdu de vue. Puis d'ailleurs, on cherchait même pas à se revoir, forcément. Hein, on s'oubliait. Mais oui, on s'est re-rapproché il y a quelques années. Et puis voilà,
Et là, ça fait 3 ans que c'est sérieux, quoi, oui.
Oui, définitivement, j'ose l'espérer en tout cas.
Mais ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est le lien entre cette espèce effectivement de petit clash qu'il y a eu entre vous et la peur de sa réaction si vous êtes au chômage.
Eh bien, parce que pour moi, tout ça, c'est ça a un lien. C'est, comment dirais-je, ça fait partie du même domaine qui résulterait de la confiance, tout simplement. La confiance, c'est vrai qu'elle se perd de plus en plus de nos jours, de plus en plus facilement, surtout avec la multiplicité des lieux de rencontre, des lieux de rendez-vous, vous savez, les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai toujours peur qu'elle aille trop. Enfin, c'est pas une peur. Ou alors, c'est peut-être une peur que je cherche, en tout cas, à surmonter. Je mentionne Eric là, c'est-à-dire que cette petite peur, cette petite crainte que j'ai, je cherche à les surmonter, donc je sais que c'est pas forcément bien. J'ai manqué de confiance envers ma compagne. Et voilà, c'est vrai que lorsque je vois l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux, vous savez, Facebook, Twitter, etc., j'ai peur. Je ne dois pas avoir peur d'ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. Hein. Je dois être, comment dirais-je, vaillant et sans reproche.
Bon, après, faudrait essayer de comprendre pourquoi vous avez peur, mais en même temps, vous me dites ça, mais vous lui mentez. C'est vous qui lui mentez là en ce moment en lui disant pas la vérité sur votre situation.
Parce que j'ai justement peur de sa réaction.
Comment elle pourrait réagir?
En vous disant ça, je suis en train de me dire, là, à l'instant présent, tout de suite maintenant, je suis peut-être en train de me dire que, effectivement, oui, je me trompe. Enfin, je l'imaginais déjà, mais enfin, là, je le ressens vraiment. Et comment dirais-je, c'est viscéral. Et la chose, c'était que si je lui avais dit, enfin, j'aurais peut-être pu lui mentir quelques jours, hein, ça n'aurait pas été très grave, mais peut-être que si je lui avais dit la vérité, au bout d'une semaine ou de 8-9 jours, ça aurait pu passer. Mais là, ça fait quand même plusieurs de longues et longues semaines. Donc là maintenant, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Et ça me paraît irrémédiable, je ne sais pas comment.
Non, irrémédiable, je ne crois pas. Ce qu'il faut arriver à comprendre et à accepter, c'est que ça ne peut pas durer. Déjà. Moi, j'arrive même pas à concevoir qu'elle ait pu ne pas s'en rendre compte dans les comptes.
En tout cas, j'imagine qu'elle ne s'en est pas rendue compte.
Oh, je pense que oui, elle est enceinte en ce moment de combien, là?
Ça va faire 6 semaines. Oui. Enfin, non, elle va accoucher dans. Non, elle va accoucher dans 6 semaines.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Enfin, plus ou moins.
Oui. Mais donc, ce qui est un peu compliqué là-dedans, c'est que c'est pas le moment non plus forcément de la secouer maintenant, quoi.
Avec le bébé, non, ça va pas être.
Si vous êtes proche de l'accouchement, c'est sûr que c'est pas le moment de créer un clash émotionnel.
Ah oui. Oui. Ça certainement pas non plus. Hein. Ah non, j'ai certainement pas envie de la. Voilà, après ça peut peut-être être une excuse que voilà, mais ça pour moi ça pourrait être
oui,
une fausse excuse.
Vous pourriez lui dire que vous avez attendu qu'elle accouche pour pas la perturber, mais ce qui est compliqué, c'est de comprendre pourquoi vous avez
mais
joué
ce que vous voulez dire.
Pourquoi vous avez joué à ce jeu-là qui vous avez peur du mensonge et vous mentez. Vous avez peur qu'elle vous fasse pas confiance et vous mettez dans une situation où elle vous dira ben voilà, j'ai raison de pas avoir confiance puisque tu me dis pas la vérité.
C'est bête hein, oui, c'est bien que c'est.
C'est comme si vous alliez vous mettre vous-même dans des situations que vous craignez.
Et oui.
Maintenant, depuis quelques semaines, est-ce que vous êtes en recherche de travail?
Je suis, oui, toujours dans le domaine de la banque. Après, moi, là, j'ai une petite formation, tout ce qui est bancaire. Après, moi, je peux élargir également mon panel de. Je veux dire, je suis pas obligé d'être toujours dans mon. Comment dirais-je, dans le métier
dans
que j'ai
secteur,
toujours fait,
oui,
précisément.
Ça.
C'est-à-dire, là, je gère des comptes courants, mais je peux toujours essayer d'élargir mon panel. Même si je commence à me rendre compte que effectivement, je vais peut-être plus me tromper de carrière professionnelle parce que je me rends compte finalement, en approchant la quarantaine, que le milieu de la banque, c'est pas forcément un milieu qui me plaît. Voilà, j'ai pu expérimenter ce milieu-là, mais le fait d'être toujours dans un bureau, avec une cravate, un costume, une chemise, voir toujours les mêmes collègues, alors ils sont certes très sympathiques, mais ça commence à devenir lassant.
Bah, c'est peut-être l'occasion que la vie vous propose.
Quand je commence à voir également le. Oui, oui.
C'est peut-être l'occasion que la vie vous offre de changer, là, justement.
Bah, écoutez, oui, là, je. Petit à petit, d'ailleurs, je pense, en tout cas, je me tourne vers un tout autre mode de vie. C'est vrai que les bureaux, toujours les mêmes collègues, les papiers, la paperasse, surtout lorsque l'on apprend de plus en plus comment. Enfin, moi, j'en apprends toujours de plus en plus dans les milieux dans lesquels je travaille. Alors certes, je connais mon, je connais mon métier, mais les rouages, les ficelles de la banque et de son fonctionnement en général, c'est des choses que j'apprends jour après jour, qui me déplaisent fortement.
Vous n'êtes pas le seul à parler comme ça, j'entends souvent ce discours-là.
Et de gens qui ont également travaillé dans le monde de la banque.
Oui, et qui craquent un peu, oui. Ouais. Et qui changent.
Il faut savoir que c'est un métier, on n'a pas forcément le droit de l'ouvrir, hein, sinon, on ne te matraque pas, mais au moins on te fouette, c'est le coup de fouet. Voilà, mais moi, j'ai trop longtemps accepté le salariat, les embouteillages, ça c'est fini. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de dire haut et fort que ce système-là est complètement... En tout cas, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas du tout. Je vois ma femme qui est épanouie dans ce milieu-là. Franchement, c'est tant mieux pour elle. Hein. C'est très, très bien. Elle a sa place, elle aime son métier, c'est bien.
Vous voyez, Alain, je suis en train de me dire qu'elle est peut-être là, l'issue. Le challenge, ce serait que vous retrouviez quelque chose. Pardon ? L'issue.
Elle est à l'issue, oui.
Non, je vous dis, c'est peut-être l'issue de votre problème. C'est peut-être ça. C'est peut-être de profiter de cette période-là pour chercher autre chose qui vous correspond mieux. De retrouver rapidement, le challenge pour vous, il va être là, de retrouver rapidement un boulot et de lui dire que voilà, j'avais une mauvaise nouvelle, mais j'ai attendu d'en avoir une bonne pour te l'annoncer.
Oui, mais compte tenu du break, comment dire, parce que oui, c'est vrai, je vous avais dit qu'on avait été, que notre relation s'était momentanément interrompue durant 6 semaines à peu près, pour une brusquement, en tout cas, je jugeais être une broutille. Je me demande vraiment ce que ça va être pour ça, quoi. Pour ça.
Mais là,
je sais pas comment désigner ça.
J'ai bien compris. Pour cet embroglio-là, mais je pense que vous mettez, comment vous dire, vous superposez deux histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Quelle est mal prise que vous ayez fait, on peut le comprendre, parce que c'est un gros manque de confiance que vous avez eu envers elle. L'histoire d'un faux compte Facebook, de la pister comme ça, c'est vrai que c'est pas très agréable. Ça n'a rien à voir avec ce qui vous est arrivé professionnellement. Maintenant, ce que vous pouvez essayer de lui faire comprendre, c'est que vous avez voulu la protéger parce qu'elle était enceinte, que vous avez attendu qu'elle accouche, que tout se passe bien. Et l'idéal, ce serait que vous lui annonciez en plus que vous avez déjà trouvé un nouveau boulot.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Non, c'est pour ça que je vous dis le challenge, il peut être là pour vous. Parce que là, je pense que elle peut l'entendre. Elle peut comprendre que vous avez eu envie de la protéger et de ne pas lui annoncer ça en fin de grossesse. Que vous ayez attendu que l'enfant soit arrivé, que les choses se passent bien et que tout soit apaisé, pour lui annoncer que vous avez perdu votre travail, mais qu'en plus, peut-être, il y a la chance qu'il y en ait un nouveau qui arrive derrière. Ou si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas un nouveau boulot tout de suite, lui dire, ben voilà, j'ai quand même attendu d'être sûr que l'accouchement se passe bien, que tu ne sois pas en stress, pour te parler de ça. Donc vous attendrez un mois ou deux après l'accouchement, qu'elle ne soit pas complètement ravagée, fatiguée, épuisée et surmenée, hormonalement. Pour lui parler de ça. Mais je pense que vous vous faites des peurs tout seul et que vous superposez deux histoires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Vous voyez, on a reçu un message pour vous d'Evelina qui nous dit « Le licenciement a été subi, sa compagne peut comprendre. Il est jeune, il va retrouver du travail rapidement et la vie reprendra son cours. »
Et puis on a après quelqu'un... moi, plus ça va, si vous voulez, et plus je me dis que... Excusez-moi. Et plus ça va, plus je me dis que je n'ai pas forcément envie de retourner dans le... d'être tout simplement salarié, j'ai peut-être envie de faire quelque chose. Moi, ce que j'aime, si vous voulez, c'est ce qui me plaisait dans le milieu de la banque, c'était de parler aux gens. Voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'exprimer aux gens, mais de façon différente. Voilà, je suis quelqu'un qui, de par mon expérience de vie, a vécu beaucoup de choses. J'aimerais faire des conférences dans des domaines assez variés, voilà, notamment sur le mode de fonctionnement du système bancaire, qui est tenu par une certaine communauté dont il ne vaudrait mieux pas révéler les noms. Voilà. Mm-hmm. Ça, je le dis. Et voilà, moi, s'il faut aller sur une estrade, s'il faut parler, prendre un micro, s'exprimer devant les gens et dire la vérité, hein, que je dis depuis maintes et maintes années, hein, ça, je le dis, ça fait très longtemps que je dis ça, que je dis que ce monde est complètement corrompu et gangréné. Voilà, ça je le dis, ça fait longtemps, personne ne m'a jamais cru. Mes collègues qui ont toujours fait la sourde oreille, les collègues de ma compagne, pareil. Voilà, donc moi, ça je le dis. Je sens qu'ils le savent, mais ils n'osent pas se rebeller. Alors moi, c'est peut-être un mal pour un bien. Je suis plus dans mon travail, je suis sans emploi, voilà, je suis au chômage. Peut-être le moment de rebondir et de me rendre compte, effectivement, que enfin, voilà, de cette situation qui est complètement inhumaine. Hein, donc, ça, voilà. Et bon, quand les gens, quand mes collègues voudront se rebeller, peut-être que moi, ça me donnera à moi-même du baume au cœur.
Mais oui.
Mais le jour où mes collègues oseront voir la vérité en face, et où les gens, en général, oseront voir la vérité, moi, je me sentirai pousser des ailes aussi. Hein, voilà. Bah, de toute façon, en plus, c'est assez d'actualité. On voit les gilets jaunes, beaucoup de gens. Alors, moi, je ne suis pas concerné, hein, parce que c'est quand même, j'étais assez bien loti. Mais c'est en tout cas un état d'esprit que je comprends et que je conçois très bien. Et le jour où tous ces petits banquiers, voilà, que j'étais auparavant, mais là je viens de prendre la décision en vous parlant tout de suite, là maintenant,
et oui.
Plus jamais devenir banquier,
oui.
Là je sens que là je suis en train de parler, de m'exprimer, et ça me libère, si vous voulez. Voilà.
Comme je vous disais, quand on
donc,
raconte...
Ce que je veux dire, c'est que mes collègues, je voudrais que mes collègues, que le monde entier prenne conscience de cette situation. Je m'en porte un petit peu, mais le jour où tout chacun d'entre nous comprendront ça, on arrêtera de se faire, voilà, et ce sera bien mieux pour tout le monde. Et puis, on n'acceptera plus les miettes, on sera à même d'exiger quelque chose de mieux.
Voilà. Et ce qui est important, Alain, dans ce que vous avez dit, c'est que vous voyez, le fait de parler à quelqu'un, quand on s'entend parler, d'un seul coup, on entend les choses différemment, on les comprend différemment. Et là, vous avez compris que ce que la vie vous offre, c'est de changer de voie, là. Professionnellement.
Oui.
Maintenant, en ce qui concerne votre compagne, on a plusieurs messages pour vous. Alors, messages de femmes et d'hommes, et qui vont tous dans la même direction. Annie qui dit, moi, en tant que femme, même près de l'accouchement, je préférais savoir et entendre la vérité. Et message de Bob qui dit, je pense qu'elle ne vous reprochera pas le licenciement, mais le mensonge.
Ça, c'est ce que je me disais au tout début. Et c'est cette période-là où j'ai hésité entre le mensonge et lui dire la vérité. Mais c'est, voilà, le problème, c'est que maintenant que le temps a passé, maintenant que voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, je crains de ne pouvoir faire marche arrière.
C'est pour ça que
et
je vous dis que
c'est vraiment une crainte que j'ai.
C'est pour ça que je vous dis que la seule issue, c'est de justifier le fait qu'elle était enceinte et que vous n'avez pas voulu la perturber émotionnellement.
Alors après, est-ce que je peux compter sur mon logos pour essayer de la convaincre
sur votre quoi?
Mon logos.
Hein,
la capacité peut-être
éventuellement. La tchatche, oui.
Ah oui, mais oui.
Non, alors là, je vais me fâcher si vous jouez à ça, parce que ça, c'est du pipeau, ça. On ne convainc pas une femme par la tchatche, on la convainc par l'amour et par la sincérité. Alors que vous enrobiez ça en disant que vous n'avez pas voulu lui faire du mal pendant la grossesse et vous n'avez pas voulu prendre le risque qu'elle soit secouée, d'accord, c'est de l'enrobage, mais n'allez pas jouer là-dessus, enfin, n'allez pas en rajouter une couche avec la tchatche. Non, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, soyez sincère.
C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, en tout cas, et puis bon, c'était un mal pour un bien, peut-être, mais au moins ça a permis de sauver les meubles à plusieurs reprises dans ma vie. Voilà, donc,
oui, mais là, on parle de votre femme.
Ah oui.
Hein. Un peu de sincérité, je pense que c'est ce dont elle aura le plus besoin là. Avec vous allez voir en plus que ça va complètement. C'est votre premier enfant qui arrive là.
Tout à fait, oui.
C'est une grande redistribution des rôles, un enfant qui arrive dans une vie. Chacun doit prendre une nouvelle place. Et ça sera peut-être le moment, ouais, justement d'avoir un rapport différent avec votre compagne.
L'enfant, ouais, c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses.
Eh oui. Ah, c'est un tsunami émotionnel, un enfant qui arrive. Hein.
Ouais.
C'est plein de bonheur, mais c'est aussi plein de changements.
Oui. Mais, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'au moment, lui, je pourrais lui mentir, il ne comprendrait pas, il ne s'en rendrait pas compte. Mais bon, ça, c'est peut-être pas...
Bah, excusez-moi, je n'ai pas compris, Alain. Vous parlez un peu vite et je n'ai pas bien entendu, là.
Oui, alors ça, c'est vrai, on me le dit souvent. Hein. Je vous excuse, d'ailleurs, mille fois.
Non, mais je comprends, c'est les passionnés, ça m'arrive aussi. C'est juste que là, avec le téléphone qui n'est pas top au niveau de la qualité, je n'ai pas forcément tout bien entendu. C'est pour ça que je vous demande de répéter.
Ah oui, mais sans téléphone... téléphone chinois, c'est un peu normal. Non, mais je disais que j'allais peut-être pouvoir mentir à mon fils, vu qu'il ne sera pas en âge de comprendre, mais après coup, je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Que non.
Mais d'où ça vient, cette manière de fonctionner? Vous étiez comme ça petit? Où est-ce que vous avez appris à enjoliver les choses ou à raconter des bobards comme ça?
Bah alors, petit, il faut dire que j'étais assez maltraité par mes camarades au plus jeune âge. Et que j'ai su compenser ça par une grande éloquence, que j'ai essayé au moins de... Voilà,
ah, la fameuse tchatche.
J'ai essayé de maîtriser la parole, les arts martiaux aussi, hein, les sports de combat, c'est cette impulsivité voilà, qui m'a poussé à aller de l'avant via l'expression orale, via également les sports de combat. Hein, et ce qui m'a valu un caractère assez... une réputation... assez critiqué, assez controversé, Puis ça m'est arrivé également d'écrire à l'avance des discours. Je suis très, comment dirais-je, très porté vers la persuasion, essayer de convaincre les gens qui m'entourent.
Oui, mais
Ça m'est arrivé.
ça, c'est de l'enrobage. Derrière le masque, est-ce que vous avez
Il y a toujours
confiance?
une vérité derrière, parce que moi, je veux dire, quand j'écris des discours, quand j'écris des textes, quand je fais des petites théories comme ça, il y a toujours une vérité derrière. Moi, il y a des choses que j'entends et que j'ai su enregistrer, emmagasiner pour les ressortir à mon tour. Des connaissances que j'ai apprises au cours de ma vie, voilà, que j'écris sur un papier, je prends un stylo, j'écris tout ça sur un cahier, je me pose sur mon canapé, voilà, rouge, tranquille, bon, tranquille, voilà. Je me pose, j'écris, et ensuite, mon but, c'est d'essayer de porter ça à l'oral, parce que j'ai toujours. Alors, moi, il faut savoir que je suis dyslexique aussi. Et donc, ça a été un rude combat pour en arriver là où j'en suis, hein, enfin, lorsque j'avais un emploi, du moins. Et j'ai essayé de compenser ça par une certaine, par un certain logos, par l'espèce
D'accord, je comprends, oui.
d'envie de parler aux gens, d'essayer de les convaincre et de les raisonner. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai su emmagasiner, que j'ai su apprendre. Hein, voilà, donc, moi, voilà, je suis comme ça.
Mais est-ce qu'aujourd'hui vous
Non?
avez confiance en vous, Alain? Est-ce que tout ça vous a donné de la confiance?
Écoutez, moi je suis quelqu'un de très confiant en moi. Donc ça, voilà, faut le savoir. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille là-dessus. Depuis mon adolescence, hein, j'ai su mettre des coups, en prendre aussi, effectivement. Puis maintenant, je me démène bien. Je sais ce que je vais, je sais ce que je veux, je sais où je vais.
Ne mélangez pas être et avoir dans votre relation de couple. Soyez vrai avec votre
Après,
femme.
mais là, quand vous me dites être et avoir, moi je suis plus être que avoir. Hein. Avoir, je laisse ça à certains. Certaines personnes qui aiment bien avoir, toujours avoir, hein. J'en connais, je ne citerai pas. Moi, je préfère être quelqu'un des valeurs, avoir des valeurs, les porter haut et fort, m'exprimer, le dire clairement. Là, je n'ai pas peur de prendre le téléphone et de m'exprimer, de parler. J'aime bien parler aux gens, c'est d'ailleurs ce qui me plaisait dans le monde de la banque, c'était parler aussi bien à des clients qu'à des collègues.
Ouais.
Cette façon de. Voilà, c'est ça que j'aime, c'est le contact avec les gens. Essayer de rassembler autour de moi, essayer de constituer une espèce de boule d'énergie positive, hein,
Alors, si vous aimez
un homme
parler,
de tout renverser.
Alain, si vous aimez parler aux gens, pourquoi vous parlez pas à votre femme?
C'est-à-dire que c'est ma femme et je
Oui,
peux pas tout lui dire non plus, quoi. C'est pas.
justement, ça devrait être la personne la plus importante au monde pour vous, non?
Oui, ouais, mais oui. Oui, quelque part, oui, c'est sûr. Oui, quelque part, oui. J'entends ce que vous dites. Ouais. Mais j'ai cette envie toujours de m'exprimer. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je suis posé, lorsque je suis dans un cadre, lorsque je suis dans un environnement, je suis très porté vers ce qu'il y a autour. Alors, non pas que j'ai envie de tromper ma femme, jamais de la vie, certainement pas. C'est quelque chose, c'est des valeurs que je répugne. Je suis totalement extérieur à toutes ces formes de perversion, hein. Ouais, je suis plutôt porté vers quelque part vers ce qui est solide, vers ce qui est voilà,
Ben
un couple très
si vous
solide.
voulez que votre
Simplement,
couple,
j'ai toujours cette envie
si vous
de
voulez que,
communiquer,
si vous
de
voulez que votre
m'exprimer.
couple soit solide, faites ce qu'il faut.
Mais alors, est-ce que je peux me permettre de faire peut-être considéré comme le grand écart, mais avoir un pied, donc dans le domicile familial, d'accord, et d'ailleurs m'impliquer au moins 50% dans mon couple, hein, ça peut être pas mal aussi, c'est vrai, mais je suis très porté, j'ai jamais envie de rester sur place. En fait, si vous voulez, je suis quelqu'un qui a toujours envie de partir de chez moi, mais toujours d'y revenir, c'est-à-dire que je sais que j'ai un socle, j'ai une femme qui m'attend à la maison, c'est qu'elle est bien, elle est à sa place, elle m'attend, mais j'ai toujours cette envie de partir, de vagabonder, de voyager, de découvrir. Mais toujours avec cette envie, quelque part, de respecter ce contrat qu'est le couple, hein, une tradition ancestrale à laquelle je ne saurais déroger, mais j'ai toujours ce petit désir, voilà, d'aller vers les gens. Alors, quand je dis aller vers les gens, c'est pas sentimentalement parlant ou sexuellement parlant, c'est simplement parler, communiquer, aller dans les bars, dans les bistrots, voilà. Mais parler, et sans me bourrer la gueule, parce que je ne suis pas non plus un alcoolique, simplement que j'aime bien
Bon,
parler, j'aime bien
Alain,
toujours communiquer, m'exprimer.
ça part un peu dans tous les sens aussi, là.
Oui, ça me le
C'est
dit souvent. moment aussi. Oui,
oui, non, j'ai l'impression que là, c'est plutôt... Écoutez, il y a deux choses à faire maintenant. Et on va s'arrêter là. Hein. Il y a quelqu'un qui envoie un texto pendant que je vous parle. Mentir... Parce qu'il y a marqué mentir, parler, une simple technique. Ah oui, pour éviter de mentir, une simple technique, la sincérité. Trouvez-vous un nouveau métier qui vous plaît et qui vous permet de communiquer et de vous ouvrir aux autres, puisque c'est ça que vous aimez.
Oui, c'est vrai, oui.
Et puis débrouillez-vous pour prendre soin de votre femme surtout et de votre enfant qui arrive. Lui parler, dire les choses comme elles sont.
Et
parlez-lui d'amour
ça,
aussi.
Je suis bien d'accord, oui.
D'accord.
Mais ce qu'il faut savoir aussi,
c'est Non, Alain, on va en rester là. J'ai pas mal de monde derrière.
Il y a un joueur qui indique l'état des couilles des chevaux.
On en reste là, merci.
Hein. Des couilles, des
Et nous allons faire maintenant la connaissance de Geneviève. Bonsoir à vous, Geneviève.
Bonsoir, Sabine. Merci de m'accueillir sur l'antenne.
Bienvenue sur cette libre antenne. Il nous reste un petit peu de temps pour nous deux.
D'accord.
Je vous écoute.
Alors, donc, vendredi soir, en rentrant, j'avais un cambrioleur. Et c'est le deuxième cambriolage que je connais. Cette fois, donc, il y a eu un face-à-face. Et avant ce cambriolage, j'avais déjà eu un face-à-face une fois précédente, mais la fois précédente, c'était avec un aide-soignant.
Comment ça?
La première fois, le face-à-face, c'était un aide-soignant. Lorsque ma mère était hospitalisée, il n'accepte pas. Lui, il estimait que ma mère n'avait pas besoin de manger.
Ah oui?
Donc, je lui ai apporté à manger. Et il ne supportait pas que je fasse ce qu'il ne faisait pas. Et il s'est contenté quand même de lever la main. Il s'était contenté de lever la main sur moi. Et donc, je lui montre, je restais calme, je n'ai rien dit. Et je lui ai montré ma main sans la lever, je lui ai montré. Et je l'ai fusillé, ça je pense l'avoir fusillé du regard.
Mmh. C'était il y a combien de temps ça, Geneviève?
C'était il y a 3 ans.
D'accord.
Plus de 3 ans.
Okay.
Après le cambriolage, ça fait. C'était en avril 17, premier cambriolage. Et là, le dernier, c'est donc de vendredi. Et ce qui se passe, c'est passé vendredi, et puis je remarque ça souvent. Quand je suis en danger, j'ai toujours un temps d'hésitation parce que la dernière fois, là, je pouvais très bien le maîtriser, l'obliger à me rendre tout ce qu'il avait pris. J'en suis persuadée. Mais j'ai peur, j'ai un temps d'hésitation, j'ai peur de détruire quelqu'un, même quand il s'agit de se défendre.
Oui.
Alors, je pense que ça peut s'apprendre quelque part, quand même. À savoir réagir sans détruire.
Qu'est-ce que vous appelez détruire quelqu'un?
Eh bien, l'handicapé l'envoyer.
En frappant fort ou en lui envoyant quelque chose sur lui?
Oui.
Donc,
en ne faisant pas le geste, la technique qu'il faut pour maîtriser sans détruire, sans handicaper.
Je ne suis pas sûre qu'il y ait des gestes particuliers. Pardonnez-moi Geneviève, mais vous avez quel âge?
Bientôt 79.
Eh oui, vous n'allez pas vous lancer dans la self-défense ou dans des sports de combat?
Même, en face des aides-soignants maltraitants, il doit y avoir aussi des choses à faire. Pour les empêcher, pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas agir comme ça.
Attendez, là, ce sont deux sujets complètement différents. Entre les aides-soignants et votre cambriolage, ça n'a juste rien à voir. On ne parle pas de la même chose, là.
Ce sont des situations quand même de violence.
De stress et de violence, ça c'est sûr, mais ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que vous avez réagi là, avant-hier, quand c'est arrivé?
Je pense que c'était important.
Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de parler un peu plus loin du combiné? Parce que ça, c'est un peu compliqué, le son.
Ah, bah, je pensais, bon. Ça va comme ça?
Oui, c'est un petit peu mieux, allez-y.
Alors, c'est moi qui... Il sortait à quatre pattes d'une chambre. Il sortait à quatre pattes parce qu'il avait broyé la porte à moitié. Donc, il en sortait à quatre pattes. Oui. Donc j'avais la possibilité, j'ai eu la possibilité de le maîtriser pendant qu'il était à quatre pattes. Mais c'est là que j'ai attendu. Mais par contre, en attendant, en regardant dans l'obscurité, parce que tout ça, ça se passait dans l'obscurité, sa main, à la main, après je me suis dit que c'était un portable. Mais pour moi, un portable, c'est rectangulaire. Et comme c'était une forme arrondie, j'ai cru que c'était une arme qu'il avait dans la main, avec un gant par-dessus.
Ah bah dans ces cas-là, il vaut mieux pas bouger, ça c'est sûr.
Mais je lui ai pris le poignet, et j'ai pas eu, enfin, avec d'une main, j'ai pas eu le temps de mettre l'autre main, qui s'est relevé de ses quatre pattes-là. Il s'est relevé, et il m'a basculé, il m'a fait tomber.
Ben oui.
Pendant qu'il était à quatre pattes, je pense que c'était possible de le maîtriser. Et d'éviter justement qu'il ne fasse tomber.
Je ne suis pas sûre, Geneviève. On ne peut pas... Quand on est une femme seule, comment voulez-vous arriver à maîtriser un homme si vous n'avez pas une force physique ? Vous ne saviez même pas s'il était armé. C'est extrêmement dangereux ce que vous avez fait. Il aurait été armé, vous auriez fait quoi ?
Je voulais lui faire tomber ce qu'il avait dans la main.
Bah oui, mais vous vouliez, mais vous vous rendez compte si vraiment il avait été armé ? Là, est-ce qu'il vous a blessé en vous faisant tomber ?
Non. Des bleus, c'est tout.
Ah oui, mais oui. Vous n'avez pas chez vous une bombe lacrymogène ou quelque chose comme ça ?
La bombe, non.
Vous savez, il y a les bombes lacrymogènes, il y a des alarmes qui sonnent, qui font un bruit épouvantable, qui assourdissent aussi.
Alors justement, je l'avais laissé, j'en ai eu une petite alarme, j'en avais une, mais comme je l'avais laissée à la maison, elle est partie.
Comment ça, elle est partie ?
Ben, il l'a pris.
Ah.
C'est vrai que je pense que lorsqu'il était à quatre pattes, il était quand même en situation de faiblesse, là.
Enfin, vous n'allez pas vous lancer seul et à votre âge dans un combat à main nue sur un cambrioleur.
Et je pense qu'il y a des femmes très âgées qui apprennent. On doit pouvoir apprendre quand même à tout âge.
Bah, écoutez, si vous voulez vous inscrire dans un cours de self-défense, pourquoi pas, hein.
Bah, oui, mais je pense. Je vois même pas comment ça doit exister. Mais je vois même pas où s'adresser.
Ah ben ça, c'est pas compliqué. Si vous vous sentez de commencer un sport de combat ? S'il n'y a que ça, il y en a partout, hein, des clubs qui font ça. Karaté, judo, self-défense, si c'est ça que vous avez envie de faire.
Il n'y a pas... pour les femmes battues, il n'y a pas des cours spéciaux
Non, je crois pas, non.
L'autodéfense,
c'est ce que je vous dis, c'est la self-défense. Mais ce n'est pas spécialement pour les femmes battues, la self-défense. Il y a des cours de self-défense.
Et ça se confond avec les sports de combat.
Mmh, bien sûr. Ça fait partie des arts martiaux aussi. Tout ce qui est karaté, judo.
Parce que ça doit être le seul moyen, enfin, c'est peut-être le seul moyen de savoir faire ce qu'il faut et de ne pas avoir cette peur au ventre de détruire quelqu'un. Parce que c'est ça, lorsque je lui ai saisi le poignet pour faire tomber ce qu'il avait dans la main, parce que je ne savais pas ce que c'était, et c'est parce que je ne voulais pas qu'il se relève pour bloquer la porte pour s'il y en avait un autre derrière, qui allait sortir à quatre pattes lui aussi. Finalement, il était seul.
Bon, écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire, Geneviève. La confiance en soi, c'est beau, mais ça me paraît très risqué. Mais maintenant, si vous vous sentez de faire ça, allez-y. Hein. Allez apprendre à vous défendre et à faire un sport de combat. Je pense qu'il serait quand même plus raisonnable d'avoir chez vous une alarme.
Ben oui, mais c'est lui qui bat.
Ou même des alarmes, vous savez, qui vous mettent en relation avec les centres de sécurité.
Oui, ça, c'est... Parce que je pense absolument... Ce qui a été fait la dernière fois... je m'attendais vraiment pas à un truc pareil.
Geneviève, on va devoir en rester là parce que la communication est de plus en plus mauvaise. Acheter une bombe lacrymogène, Renseignez-vous du côté des alarmes et puis inscrivez-vous, pourquoi pas, si vous avez envie de commencer un sport de combat. Ça sera très bien. D'accord ? Oui, la communication est trop mauvaise, là. C'est pas
Europe
possible.
1, la libre antenne. Sabine Marin.
Morissette, est-ce que vous êtes là ?
Allô ?
Ah, ben voilà quelqu'un que j'entends correctement ce soir. Bonsoir à vous, Morissette.
Vous m'entendez bien, là ?
Je vous entends bien. On va terminer cette émission ensemble, si vous le voulez bien.
Oui, mais ça s'approche, hein. Et il ne reste pas beaucoup de minutes.
Alors, allez à l'essentiel, comme ça. Je vous écoute.
Mais j'ai dit à Hassan, c'est ça ?
Hassan,
oui, excusez-moi. J'écorche les prénoms. Et ce qui m'a su un peu mal de Hassan, c'est qu'il m'a demandé si j'avais bu. Et je suis contre l'alcool, j'avais pas bu.
Bon.
Et ça m'a un petit peu bloqué.
Excusez-le, c'est peut-être un peu maladroit, mais quelquefois, vous savez, on a des gens qui s'expriment bizarrement et on a souvent un petit peu peur qu'ils soient alcoolisés, qu'on ait du mal à se parler derrière, c'est pour ça.
Il ne faut pas me parler d'alcool, surtout pas, hein, parce que j'en ai horreur. Il n'y a pas d'alcool chez moi. Hein.
Bon, bah, très bien, comme ça c'est clair. Alors, je vous écoute.
Alors, oui, je disais que j'ai, dans ma jeunesse, dans ma plus tendre jeunesse, quand j'étais toute petite, j'ai été maltraitée. J'ai été battue presque à mort, hein, par une tante qui a refait le même schéma avec ses enfants. Son fils, l'aîné, comment dire, nous, j'ai été élevée avec mes grands-parents, hein.
Oui.
Parce que je suis... Bon, ma mère m'a ignorée complètement. Elle ne me voulait pas. Elle a caché sa grossesse à ses parents, c'est-à-dire à mes grands-parents, bien sûr. Elle a caché sa grossesse. Elle se fermait le ventre, vous savez, elle se serrait le ventre avec une ceinture mon grand-père portait pour tenir ses reins au chaud, vous savez. Et elle se fermait, elle prenait des tricots larges pour pas faire voir. Et j'ai, dans son ventre, j'ai pas. Maintenant, je le ressens, mais bien avant, il y a déjà longtemps, je ressens, comment dire, elle ne voulait pas, quoi. Vous voyez, pour elle, il faut pas même en parler, hein. Moi, j'ai su par un oncle qui était mon père, mais j'avais 45 ans, par là. Je me suis mariée oh là là,
Morissette, on va devoir faire court, donc ne cherchez pas l'année de mariage, parce que là, on perd du temps.
Oui,
qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous amène ?
J'ai plus de contact, j'ai mon fils... mon fils m'a fait déménager de la Haute-Loire, je suis passée dans le Puy-de-Dôme, donc je suis pas loin de chez mon fils, je suis à 5 minutes à pied. Il m'a fait déménager parce que il voulait pas que je reste toute seule. J'étais dans la Haute-Loire, il voulait pas que je reste toute seule. Bon, moi je vois mon fils 2-3 fois par semaine, et donc je suis arrière-grand-mère. Ma première petite arrière-petite-fille va avoir 6 ans cette année, au mois de juillet. Ma fille a perdu son mari, elle avait 44 ans, elle en a 49. Là, au mois de décembre, je vais laisser un message pour lui souhaiter son anniversaire. Bon, pas de réponse. Elle va peut-être m'appeler pour le 1er de l'an, bon, rien du tout. Et j'en ai parlé à mon fils. Mon fils ne veut plus entendre parler d'elle. Alors, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. J'aime pas que les gens se fâchent. J'aime pas.
Mais oui. Mais vous n'êtes pas responsable de l'attitude des autres ?
Ben non. Non, parce que je lui ai rien fait. Si elle m'appelait en me disant « Bon, tu m'as fait ça ou tu m'as dit ça », mais c'est pas le cas. C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elle a fait son petit clan, seulement le petit clan est en train de la laisser tomber.
Le petit quoi ?
Le petit clan. Elle s'est fait un petit clan. Oui, un petit clan.
D'accord.
Des amis par-ci, par-là, mais toutes ses amies, ils sont morts, hein. Ça y est, ils n'existent plus. Ils sont morts par l'alcool. Elle a perdu tous ses amis comme ça.
Mmh.
Maintenant, elle est dans un petit village où il n'y a plus personne, elle est toute seule. Et un jour, je me promenais là dans ma ville où j'habite maintenant, j'ai trouvé une dame que je connaissais très bien, qui habite pas loin de chez elle. Et je lui ai dit, écoute, elle s'appelle Gisèle, je peux mettre son prénom, ça n'a pas d'importance. Et je lui ai dit, tu n'as pas des nouvelles de ma fille? Bon, je ne prononce pas le prénom, hein. J'ai dit, tu n'as pas des nouvelles de ma fille? Elle me dit, si, je la vois de temps en temps. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a maigri énormément. Alors que c'était une fille qui mesurait à peu près 1m67. Moi, je mesure 1m50. Et moi, du coup, j'ai perdu 25 kilos en 4 mois, moi. Enfin bon, je suis diabétique.
Est-ce que vous vous faites aider?
Mon fils m'aide, oui.
Non, personnellement.
Oui, mon fils m'aide beaucoup.
Je parle d'un thérapeute, là.
Non.
Ben, ça me paraît très urgent, vraiment.
Je sais pas.
Ben, moi, je vous le dis. Et on va se quitter là-dessus. Trouvez quelqu'un qui vous aide. Bon. Ça me paraît important. Allez voir un psychologue. D'accord.
Et je peux pas vous rappeler demain, non?
Si vous voulez appeler Sophie, ce sera demain soir.
Mais non, je préfère tomber sur vous.
Il faut vraiment que je vous laisse l'émission se terminer. Il me reste 20 secondes.
Ah.
Prenez soin de vous,
vous
vraiment.
Vous pouvez me
rappeler? Allez, il me reste 20 secondes pour terminer cette émission. Merci surtout à tous ceux qui nous ont soutenus tous ensemble. Par SMS, merci à Mick, merci surtout à... Alors attendez que je rebombine. Merci à Annick pour vos messages de soutien, ça me touche beaucoup. Demain soir, c'est Sophie Peters que vous retrouvez à ce micro. Je vous embrasse, je vous retrouve à partir de vendredi prochain. Passez une bonne nuit. Vous écoutez Europe 1? Il est 1h du matin.